Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58 et vous êtes bien dans Apolline Matin. Excellent réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC. Nous sommes le mardi 7 avril. Les prix du carburant qui continuent de flamber. 2,01€ pour l'essence, 2,28€ pour le gasoil. Les groupes pétroliers s'en mettent-ils plein les poches? Voilà ce que dit LFI qui dénonce notamment le fait que les pétroliers, donc effectivement, aient augmenté leur marge. LFI qui demande un blocage des prix et qui promet que ça ne coûterait aucun centime au budget et que ça limiterait donc les marges. La députée insoumise et économiste Aurélie Trouvé est en direct dans 10 minutes à 7h10. À 7h40, ce sera la question aussi des conséquences, parce que le représentant de l'Union des entreprises de proximité, Michel Picon, qui sera mon invité, réclame des aides et cible trois professions en particulier: les infirmiers, les taxis, les entreprises de travaux publics, qui seraient également victimes des hausses des prix des matières premières et du matériel. Il attend des annonces du gouvernement. Michel Picon, il sera avec nous à 7h40. Peut-être que vous-même, vous travaillez dans le bâtiment, ou alors vous êtes infirmier, infirmière, taxi. Appelez-nous au 3216. Et justement, des aides, est-ce qu'il y en aura? Réponse à 8h30, parce que mon invité dans le face-à-face, ce sera à la fois la porte-parole du gouvernement et la ministre de l'énergie, Maud Bréjon. Elle sera mon invitée à 8h30 sur RMC et BFM TV. Voilà pour le programme. Il est 7h. Dans un instant, le journal, mais tout de suite la météo, Géraldine, soleil et douceur qui continue.
Ah ouais, si vous avez aimé la journée d'hier, vous allez adorer celle d'aujourd'hui, parce qu'on va garder donc le soleil partout. Température assez contrastée ce matin, 1 degré à Reims, mais 22 déjà à Biarritz. Le calme pourrait d'ailleurs battre des records de douceur ce matin, en particulier sur le nord-ouest. Cet après-midi, il va faire jusqu'à 28 degrés pour Bordeaux, Clermont-Ferrand, 27 à Bourges, 26 à Lyon, 24 à Paris, 22 à Marseille, 20 à Lille, 18 degrés pour Nice, et donc avec ce soleil qui sera ultra présent toute la journée partout.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Anéantir et détruire l'Iran en une seule nuit. Promesse de Donald Trump si Téhéran ne réouvre pas le détroit d'Hormuz avant la fin de son ultimatum prévu ce soir. Les carburants commencent à manquer en France dans une station sur cinq. Et pour faire le plein, il a fallu s'armer de patience hier au retour d'un long week-end de Pâques. Et l'été qui a un peu d'avance. Le début des vacances pour la zone A qui débute sous un beau soleil et des températures élevées au-dessus des 30 degrés dans le sud-ouest.
L'ultimatum de Donald Trump expire la nuit prochaine.
Encore une journée, l'Iran a jusqu'à 2h du matin, heure française, pour réouvrir le détroit d'Hormuz. Sous peine d'une destruction totale, le président américain a réitéré ses menaces contre Téhéran hier soir.
Nous avons un plan, grâce à la puissance de nos forces armées, qui prévoit que tous les ponts d'Iran seront détruits, que toutes les centrales électriques d'Iran seront hors service, brûleront, exploseront et ne pourront plus jamais être utilisées. Une destruction totale, et si nous le voulons, cela se fera en l'espace de 4 heures.
Et l'Iran a déjà répondu au président américain rejetant le cessez-le-feu. Et c'est aujourd'hui que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur un projet de résolution réclamant le déblocage du détroit d'Hormuz, nerf de cette guerre, avec ses conséquences économiques en France sur le prix des carburants notamment. Alors que le plafonnement des prix dans les stations Total doit prendre fin aujourd'hui, 20% des stations du territoire étaient hier en pénurie d'au moins un carburant. Et pour faire le plein au retour d'un long week-end, Pascal, il valait mieux être patient. Amine Lapchin a pu le constater sur une aire de l'autoroute A13.
Le coffre chargé de chocolat, Julien et sa femme rentrent de Normandie et sur la route, leur week-end de chasse aux œufs se termine en chasse au carburant.
On a fait deux stations HS, rien, zéro, vide. Ça commence à inquiéter un petit peu.
Parti à Dieppe, Abdel lui a voulu faire le plein avant de rentrer chez lui en région parisienne, mais...
On a dû faire plusieurs stations, sortir de l'autoroute et essayer de trouver, on n'a pas trouvé. Et du coup, on a dû attendre de revenir jusqu'à Morinvilliers pour pouvoir trouver enfin une station.
Car ici, pas de pénurie, mais devant les pompes, des files d'attente de plus plusieurs dizaines de mètres.
Là, j'ai attendu grosso modo un petit quart d'heure. Ça va, un petit quart d'heure par rapport à des endroits où on peut attendre 35 minutes.
Un temps que ne voulait pas perdre ce groupe d'amis partis en bord de mer pour le week-end. Alors celle qui a tout géré, c'est Fantine, la conductrice.
Moi, j'ai une application, Gasoil Now. Donc on a fait le plein avant de partir parce que j'avais peur après d'être bloquée. Plus on allait se rapprocher de Paris, plus j'avais peur des pénuries en fait.
Une crainte partagée par de nombreux automobilistes obligés de s'organiser pour trouver du carburant. Le problème, lâche l'un d'eux, c'est que quand on en trouve, il est bien plus cher qu'ailleurs.
Et le prix des carburants qui sera sur la table des discussions à Bercy en fin d'après-midi. Les syndicats vont faire leurs propositions au gouvernement qui a promis des annonces en ce début de semaine et pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages. Cette proposition de loi examinée au Sénat aujourd'hui ouvrant le droit de retirer 5000 euros de son épargne salariale sans aucun justificatif. Texte déposé par le sénateur LR Olivier Rietmann, soutenu Romain Cluzel par le gouvernement.
Oui, ce texte a beau être préparé depuis de longs mois, il prend une dimension particulière avec la crise du prix des carburants. L'objectif est de permettre un retrait de 5000 euros sur l'épargne salariale défiscalisée sans attendre les 5 ans normalement prévus. Ce type de retrait est déjà possible, mais il faut un justificatif précis. Mariage, naissance d'un troisième enfant ou encore achat d'un véhicule électrique. Là, les sénateurs ne prévoient que deux conditions. Un seul retrait possible et dans l'année qui suivra l'adoption du texte. L'exécutif soutient cette proposition de loi malgré les critiques d'une grande partie des organisations patronales et des syndicats qui préféreraient une augmentation des salaires. S'il est voté au Sénat, ce texte devra aussi passer à l'Assemblée pour être appliqué, ce qui pourrait être le cas avant l'été selon un conseiller de l'exécutif.
Les précisions de Romain Cluzel, service politique RMC. L'histoire en marche, il était 1h50 cette nuit.
Houston, we have you the same, and it is so great to hear from Earth again.
La voix de Christina Koch, membre de l'équipage Artemis. Heureux de rétablir le contact avec la Terre après 40 minutes coupées du monde sans aucun lien avec l'humanité pour seul horizon la Lune, qu'ils ont contourné une première depuis 1972, plus loin que n'importe quel autre être humain, à 405 588 kilomètres précisément de notre planète. On en reparle dans le journal de 7h30.
Et puis retour sur Terre avec cette vague de chaleur précoce
qui s'est installée sur le pays et qui va durer tout au long de la semaine. On a frôlé les 32 degrés hier dans le sud-ouest. Une aubaine pour les vacanciers de la zone A qui ont pu profiter des plages de Lacano près de Bordeaux. Reportage Les Pieds dans l'eau, Amélie Courtet.
Le ciel bleu, le sable qui brûle les pieds et l'appel des vagues.
On va surfer. C'est parti, let's go.
Une heure plus tard, planche à la main, on retrouvait Stéban et Alban.
Comment elle est là, l'eau?
Avec ou sans la combi? On a oublié qu'on avait des pieds, quoi. Elle est froide. Mais sinon, avec la combi, c'est top.
La reprise du surf est quand même dure.
Parce qu'on est pas bon.
On est hyper mauvais.
On est pas bon. Le concept, c'est d'être en dehors de l'eau. On est plus souvent dans l'eau qu'en dehors de l'eau. Mais c'est cool. On s'amuse.
Une note sur cette journée de soleil.
On est sur un beau 9. Et avec le barbecue de ce soir, on sera sur un 10.
Mais avant l'urgence.
Décaler nos sacs avant qu'ils partent dans l'eau.
Car l'eau monte vite.
Bah, comme la classique, on s'est fait visiter par la remontée de la vague. C'est elle qui nous a surfé là, c'est pas l'inverse.
C'est un peu les risques.
Au bord de l'eau, les serviettes de Kenza et sa petite fille sont trempées.
Hop là, tu viens, Hilo ?
C'est quand même hyper agréable de pouvoir se baigner aussitôt dans l'année, quoi. On est que début avril, ça annonce un bel été.
Sur la plage, on lit, on joue aux raquettes et Ellie, 5 ans, s'occupe de son château de sable.
Faut aller chercher de l'eau.
Une journée rêvée.
Et en plus, on a mangé des glaces.
Son seul souhait, qu'elle ne se termine jamais.
Non !
C'est le début des vacances, ça ne fait que commencer.
Ah !
RMC 7h07, un nom ce matin, Paul Seixas, en démonstration hier sur le Tour du Pays Basque.
Un mois seulement après sa deuxième place sur les Strade Bianche, le jeune espoir français a encore brillé sur le contre-la-montre inaugural de la course 13,9 km autour de Bilbao. Premier succès de sa jeune carrière dans une course du World Tour. C'est l'équivalent de la première division dans le monde du vélo. Sauf que le français ne s'est pas contenté de gagner. Maria Azé y a écœuré la concurrence.
À 19 ans, c'est le plus jeune à avoir remporté une étape sur le Tour du Pays Basque.
Première victoire dans le Tour, là, c'est juste fou.
Surtout, Paul Seixas a écrasé ses principaux adversaires. Isaac Del Toro et Juan Ayuso terminent respectivement à 51 secondes et 1 minute 16 du français. À l'arrivée, le Lyonnais est heureux.
Je ne m'attendais pas à être dans une telle forme et ça me donne surtout le plein de confiance. Et voilà, d'avoir le maillot jaune sur les épaules, forcément, c'est une bonne situation pour moi.
Il en reste 5, mais cette première étape confirme le statut de grand favori de Seixas sur le Tour du Pays Basque. Au micro d'Eurosport, le français qui Kevin Vauclin, deuxième de l'étape, est impressionné.
C'est juste exceptionnel, mais c'est de Paul. On est sur la même lancée depuis le début, depuis l'année dernière. Il n'y a pas de hasard, hein, il est juste fort.
En cas de victoire du classement général, samedi, Paul Sexas deviendrait le premier coureur français à s'imposer sur une course par étape de niveau World Tour depuis Christophe Moreau en 2007. Jérôme Pineau, ancien coureur et consultant RMC Sport.
Il a clairement affiché ses ambitions. Il est là pour gagner le classement général. Et un contre-la-montre, c'est vraiment révélateur de la forme du moment. Je pense que ce soir, dans la tête de cet adversaire, c'est déjà compliqué. Il a tapé un grand coup.
Un succès augmenterait aussi les chances de voir Paul Sexas au départ du Tour de France cet été.
Et puis le début des quarts de finale de la Ligue des Champions ce soir, en attendant le PSG demain opposé à Liverpool. Deux matchs au programme à vivre sur RMC dès 21h. Real Madrid, Bayern Munich et Sporting Portugal, Arsenal.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08, le gasoil bientôt à 3 euros. Pour éviter cela, bloquons les prix. Voilà votre parti pris ce matin, Aurélie Trouvé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée LFI de Seine-Saint-Denis et vous êtes économiste de formation. Vous vous rappelez qu'en 1990, le gouvernement socialiste à l'époque avait réglementé temporairement les prix à la pompe. Est-ce que ce serait vraiment possible aujourd'hui? Vous nous le dites dans un instant et puis je vous attends, vous qui nous écoutez. Appelez-nous, vous êtes peut-être infirmier, taxi, vous travaillez dans le BTP. Appelez-nous au 3216 pour nous dire si vous êtes favorable au blocage des prix. Il est 7h09.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous. Les prix inédits. 2,01€ le litre d'essence en moyenne. 2,28€ pour le gasoil. La flambée des prix du carburant. Est-ce qu'elle va s'arrêter un jour, Aurélie Trouvé? Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée LFI de Seine-Saint-Denis. Vous êtes économiste de formation. Votre parti pris ce matin, c'est qu'il faut bloquer les prix. Pour vous, c'est ça la solution?
Ce qu'on dit avec la France Insoumise depuis un mois, bloquer au niveau d'avant-guerre, c'est-à-dire 1,70€ le sans-plomb 95, 1,80€ le gazole. Et pourquoi à ce niveau-là? Parce que c'est à ces niveaux de prix que Total et les grandes compagnies pétrolières, en fait, ont acheté le pétrole, ont fait leur stock. Et aujourd'hui, ils se font des profits hallucinants, des super profits hallucinants, parce qu'en fait, ils revendent à un prix extrêmement élevé, alors qu'ils l'ont pas du tout acheté à ce prix-là.
Mais attendez, depuis quand vous dites que, c'est-à-dire qu'ils, là, ils sont en train, eux, de se faire, donc ils se font quoi comme marge?
Alors, vous avez vu que le Financial Times l'a révélé il y a quelques jours. En fait, il a révélé que Total, déjà, c'est déjà fait 1 milliard grâce, entre guillemets, à la guerre. C'est vraiment les grands profiteurs de guerre. Ils ont acheté juste avant la guerre, ils ont spéculé d'énormes quantités de pétrole qu'ils vont livrer au mois de mai, d'ailleurs. Rien qu'avec ça, ils vont se faire 1 milliard de bénéfices en plus.
Le Financial Times qui précise effectivement que Total aurait acheté 70 cargaisons de pétrole à bon marché avant le début de la guerre ou au tout début de la guerre.
C'est ça.
Et que, effectivement, ils auraient en quelque sorte stocké ce pétrole pas cher, moins cher, pour le revendre aujourd'hui au prix actuel.
Mais il se repasse la même chose qu'en 2022, c'est-à-dire Total fait des méga profits sur le dos des gens et sur le dos des toutes petites entreprises qui en fait ont du mal ensuite à partir en vacances. Moi maintenant, il y a des familles qui disent moi aux vacances de Pâques, je vais pas pouvoir aller voir la famille, c'est trop cher le plein.
Je pense que vous avez des exemples de ça. Qu'ils doivent gérer leur stock, je cite, et leur approvisionnement, que les gains d'aujourd'hui compenseront les pertes de demain. Total, qui va aussi, normalement, à partir de ce soir, remonter les prix qu'ils avaient plafonnés. Qu'est-ce que vous dites à Total?
Reverser vos super profits. Mais moi, c'est surtout à l'État que j'ai envie de m'adresser. Vous savez combien Total a versé de dividendes et en rachat d'actions l'année dernière? Alors évidemment, on se représente pas tellement c'est hallucinant. 15 milliards d'euros, c'est le record du CAC 40. Il faut savoir que Total a multiplié par 2 à 4 ses bénéfices en 10 ans. Mais et dans le même temps, l'essence est passée de 1,40€ à aujourd'hui 2€. Donc c'est juste hallucinant. Et vous savez combien Total a payé d'impôts sur les sociétés en 2019, 2020, 2021, 2023? Donnez un chiffre.
Je sais pas.
Zéro. Zéro. Et à qui ça profite tout ça? Ça profite pas à l'État parce qu'il verse pas d'impôts. Et vous savez qui a la plupart du capital de Total? Parce qu'on se dit au moins peut-être ça va enrichir des actionnaires français. Eh ben en fait 40% du capital de Total, c'est des grands fonds américains type BlackRock.
Donc on fait quoi? Voilà. Donc on fait quoi? On nationalise Total?
On bloque les prix. Déjà, c'est la moindre des choses. Il y a un décret.
Là vous parlez de Total, mais si on bloque les prix, c'est tous les raffineurs, les stations.
Et oui, mais Total a le quasi monopole du raffinage. Donc c'est pour ça que Total en profite. Et donc c'est bien la cible, c'est bien total. Et donc, vous savez d'ailleurs qu'il y a des pays, la Croatie, la Grèce, la Hongrie, la Pologne, la Thaïlande, la Corée du Sud, tous ces pays ont déjà, là, depuis un mois, bloqué ou encadré leur marge. Et ce qu'on vient d'apprendre, ce qui est juste hallucinant, il y a cinq grands pays, les cinq plus grands pays européens, sauf la France, qui viennent de demander de taxer les super profits des multinationales du pétrole. Pourquoi la France le fait pas? Pourquoi le gouvernement ne demande
les prix,
rien à Total?
Bloquer les prix, effectivement, mais avec une question que vous-même vous avez soulevée avec votre propre institut économique, qui est le risque de la rupture. C'est-à-dire qu'au fond, les raffineurs sont absolument pas obligés de vendre à la France. Si vous dites, en France, le prix, ce sera 1,70€, alors que chez nos voisins allemands, par exemple, ce serait 2,40€, pourquoi est-ce qu'ils s'embêteraient à venir nous vendre leur pétrole, leur essence moins cher, alors qu'ils peuvent la vendre plus cher à nos voisins?
Alors, c'est récent, avec l'Institut de la Boétie, on a étudié cette hypothèse. Bon, d'abord, ça n'arrivera pas à court terme si on bloque les prix. Total va faire du chantage à la pénurie, mais en vérité, il a déjà beaucoup de stocks privés et il a même des stocks stratégiques.
Non, mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'il les vendrait à la France moins cher alors qu'ils peuvent la vendre plus cher en Allemagne, par
exemple ? Alors, ça prendra du temps, parce que d'abord, ça coûte cher de refaire toutes les chaînes de valeur, les circuits d'approvisionnement.
Oui, mais vous ne niez pas qu'il y a ce risque de rupture de la chaîne.
Oui, si on bloque sur long terme. Et alors là, il y a aussi une autre possibilité qui est la réquisition qui existe, qui est
dans ces cas-là, c'est vous réquisitionnez, c'est-à-dire un, vous bloquez les prix, deux, vous réquisitionnez.
La menace de la réquisition. Et puis moi, je vais vous dire, il va se poser à terme une question.
Ou alors vous nationalisez finalement Total.
C'est
ça la question. Moi, si je vais au bout de votre logique.
À terme. Je dis à terme se pose cette question-là et vraiment
demandez la nationalisation de Total.
Je dis pas qu'on la demande maintenant, je dis que si Total s'amuse à faire, entre guillemets s'amuse, parce que c'est sur le dos de tous les Français, du chantage à la pénurie, alors qu'il en a largement les stocks, il faudra songer dans une première étape à la réquisition, c'est un arrêté préfectoral, c'est tout à fait possible, et à terme, à la nationalisation, pourquoi pas? Parce que, je rappelle, cette entreprise a été publique de 1924, et c'était pas pour rien, jusqu'en 1993, que ça fait 15 milliards de dividendes, et c'est de pire en pire versé à des actionnaires de plus en plus américains, sur le dos des Français, que Total fait du chantage à la pénurie, fait des méga profits, et en maîtrisant des prix.
Donc, on bloque les prix, deux, on réquisitionne si nécessaire, et trois, éventuellement, on va jusqu'à nationaliser. Je voudrais qu'on donne également la parole à Émir, qui nous appelle au 3216 depuis la métropole de Lyon. Bonjour Émir.
Bonjour madame.
Comment ça va? Vous êtes chauffeur de taxi, vous vouliez justement réagir. Est-ce qu'il faut bloquer les prix?
Écoutez, moi je pense surtout qu'il va falloir aider les professions qui en ont le plus besoin, comme moi-même les
chauffeurs de taxi,
comme les auxiliaires de vie, les personnes qui s'occupent des personnes en handicap, tous les chauffeurs routiers qui nous amènent les pâtes, la farine, des œufs, tous les professionnels qui permettent finalement de vraiment éviter l'inflation, que tous les professionnels. Quoi. Moi, je pense déjà à ça.
Émir, j'ai une question très précise. Je m'inquiétais d'un point. Vous achetez effectivement vous votre essence, du coup forcément beaucoup plus cher. Vous êtes peut-être au gasoil. Au jour le jour, ça fait beaucoup plus d'argent à sortir, mais à la fin, on est bien d'accord que ça compte en charge, c'est-à-dire que vous le déduirez de vos impôts à la fin de l'année.
Oui, on peut le voir, c'est des charges. Quand il arrive, il y a des charges et on récupère à un moment donné dans l'année, pas forcément grand-chose, on appelle ça la TICPE. C'est une fois dans l'année qu'on récupère ça. Mais dans
non, mais vous, quels sont vos notes, j'allais dire vos frais que vous déduisez ensuite de vos impôts? L'essence fait partie de vos frais.
Oui, bien sûr.
Donc à la fin, cette essence que vous l'achetiez plus cher ou moins cher, c'est surtout un manque à gagner pour les impôts de l'État, mais c'est pas vous qui le payez.
Je vais vous donner un exemple concret, si vous voulez. Vous voyez, on a dans le taxi, on a un taxi qui permet de donner les prix aux clients.
Oui.
Et ces prix-là, ils sont relevés une fois par des garages agréés pour régler les tarifs. Et une fois, quoi qu'il arrive, que ce soit à 1,10€, 1,20€, 3€ le même, il soit à 5€ le litre. Le tarif, il sera le même pendant toute l'année.
Parce que ce tarif, effectivement, il est bloqué. Merci beaucoup, Émir. Précisément, les taxis, les aides-soignantes, les transporteurs, certains sont aidés, mais peu. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Je vous le dis, bloquer les prix déjà pour que, l'essence...
Si vous bloquez les prix, c'est pour tout le monde, c'est pour n'importe quel particulier.
Et le chauffeur de taxi aussi, et l'infirmière en libéral aussi. Le gazole à 1,80€ pour les chauffeurs routiers, etc. Donc c'est déjà, vous répondez à l'urgence en bloquant 1,70€ l'essence et 1,80€ le gazole. Et je le redis, c'est tout à fait possible. Il y a un simple décret à mettre en œuvre, c'est le L410 du code de commerce.
Et quand vous le bloquez, vous le bloquez à 1,70€ comme le demande la CGT?
Oui,
à quel niveau vous
euro,
le bloquez?
Alors déjà, c'est nous qui le disons depuis un mois. 1,70€ l'essence, 1,80€ le gazole. Ce qu'on dit depuis un mois, il faut le faire. Ça règle la situation en urgence pour toutes ces petites entreprises qui... Et puis moi, je le dis, on a un vrai problème. On a un gouvernement d'incapables, hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'instant depuis un mois? Rien.
Et ça,
rien
je pour les ménages, et rien ça, pour les je demanderai à la porte-parole du gouvernement, qui est également ministre de l'Énergie, qui sera mon invité à 8h30. Je lui poserai toutes ces questions. Merci, Aurélie Trouvé, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Député LFI de Seine-Saint-Denis, blocage, éventuellement réquisition, et pourquoi pas, s'il le faut, nationalisation de Total. Il est 7h21. Arthur Chevalier est entré dans ce studio. Bonjour, Arthur.
Bonjour, Apolline.
Arthur, écoutez.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Et on a tous reconnu, évidemment, c'est Le Petit Prince, et il fête ses 80 ans.
Et oui, c'est le livre le plus traduit dans le monde, hein, 300 millions d'exemplaires vendus depuis sa parution. Ce matin, je vous raconte l'histoire de ce livre et surtout de son auteur, l'incroyable Saint-Exupéry.
Vous nous le dites dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. 7h22, on se retrouve dans 55 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23 et vous êtes bien sur RMC, on va remonter le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Arthur, cette semaine, Le Petit Prince, le livre le plus lu de la langue française, fête ses 80 ans, les 80 ans de sa première publication en France. C'était donc en 1946. Pour vous, Le Petit Prince, c'est le plus grand succès de la France à l'étranger depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Ah oui, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, que des records. Le Petit Prince est le deuxième best-seller du monde après la Bible. Il est traduit dans 659 langues et dialectes. Plus de 300 millions d'exemplaires écoulés depuis sa parution. Aujourd'hui, on en vend encore 5 millions par an à travers le monde. Ces chiffres sont sans équivalent. Le Petit Prince est un ovni littéraire.
Alors, parlez-nous de son auteur.
Alors, le père du Petit Prince, c'est Antoine de Saint-Exupéry, qui est donc français. Il est né en 1900 et sa première passion, c'était l'aviation. Il devient donc pilote très jeune et il va travailler pour l'Aéropostale. Alors, l'Aéropostale, c'était une compagnie aérienne qui transportait le courrier d'un pays à l'autre, hein. La Poste, mais dans les airs, si vous voulez. Afrique, Asie, Amérique du Sud, Saint-Exupéry va sillonner le globe aux manettes de son avion. Ce qu'il adorait, c'était la vitesse, l'aventure, les défis.
Quand est-ce qu'il a écrit Le Petit Prince?
Alors, il faut d'abord savoir que Saint-Exupéry, en plus d'avoir piloté des avions, avait déjà écrit des livres, hein, surtout inspirés par ses passions, les voyages, l'aviation. Alors, on peut citer Terre des Hommes ou Vol de Nuit, des monuments de la littérature. Et au début de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il quitte la France parce qu'elle est occupée par les nazis et il se réfugie à New York. C'est là-bas qu'il écrit Le Petit Prince, un conte philosophique sur l'amitié improbable entre un enfant qui vient d'une autre planète et qui est donc habillé en petit prince, d'où le titre, et un aviateur qui vient de se cracher.
Le Petit Prince va d'abord être publié aux États-Unis.
Exactement, à New York en 1943, dans une édition à la fois anglaise et française. Et il faut attendre la fin de la guerre et le départ des Allemands pour qu'on publie le livre à Paris. Ça sera chose faite donc le 6 avril 1946 aux éditions Gallimard. C'est cet anniversaire qu'on fête cette année, les 80 ans.
Une publication française que l'auteur ne verra jamais.
Non, ça c'est l'histoire d'un drame, Apolline, puisque dès 1943, Antoine de Saint-Exupéry avait rallié les forces françaises libres, donc la résistance contre les Allemands. Et en 1944, alors qu'il vole au large de Marseille, son avion disparaît des radars. On ne le reverra plus jamais. Donc 2 ans avant la publication en France du Petit Prince, Saint-Exupéry meurt. Et il faut attendre les années 2000 pour qu'on retrouve l'épave de l'avion. Alors l'hypothèse la plus probable, c'est que Saint-Exupéry ait été abattu par un avion allemand, mort au combat et pour la France, comme quoi la France a elle aussi des aviateurs héroïques.
Magnifique, magnifique livre. Merci Arthur Chevalier. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Oui, bonjour.
Mon invité dans le face-à-face, c'est la porte-parole du gouvernement et ministre de l'Énergie, Maud Bréjon.
Oui, bah, je l'ai croisée dans les couloirs. Comme toujours, elle est hyper contente d'être là. Elle a super. Allez, qui c'est qui a flingué son week-end de 3 jours en rentrant le lundi soir avec les bouchons sur la 13? Eh ben, c'est Maud. Qui c'est qui se lève tôt? Eh ben, c'est Maud. Qui c'est qui va se faire engueuler? Ah, t'es ministre de l'Énergie, il n'y a plus d'essence. Eh ben, c'est Maud. Meuf, c'est bon, t'as une voiture, t'as pas d'essence. Non, mais allô, quoi. De toute façon, moi, ça me saoule. Je voulais être ministre de la fashion et des bubble tea, quoi. Pas parler d'énergie sur RMC, ça me casse les ovaires.
Oh non.
En plus, je l'écoute même pas cette radio de vieux.
Oh non.
Alors, je trouve qu'elle a
c'est la
bol.
Radio des jeunes, justement.
En plus.
Oh.
Mais elle est encore plus jeune. Ouais. C'est une ado, quoi. En plus, je trouve qu'elle a du bol parce qu'elle est porte-parole du gouvernement Le Cornu. Elle est pas porte-parole de Donald Trump. Là, vous l'imaginez, après le week-end où il a insulté tout le monde, le président américain, vous la recevriez. Maud Bréjon, bonjour. Donald Trump a demandé à ces bâtards d'Iraniens de rouvrir ce putain de détroit. Que faut-il comprendre ? Ben que ces bâtards d'Iraniens, ils devraient rouvrir ce putain de détroit. C'est pas plus, qu'on peut pas faire plus clair. Vas-y, ça me saoule, quoi. Maintenant, mon job, ça consiste à répéter des gros mots balancés par un gros porc à Gilles de la Tourette.
Oh
et qui fait des conférences à deux balles pour se pignoler sur un sauvetage qu'il a même pas fait. C'est-à-dire qu'à tous les coups, il a viré le général, qui a tout coordonné. Allez, ça me gave, super. Bref, le gouvernement a la pression. Avec l'augmentation du prix de l'essence, les agriculteurs sont pas contents, les pêcheurs sont pas contents, les routiers sont pas contents, les coiffeurs sont désespérés. Enfin, eux, c'est parce que William et Harry sont fâchés. Ça a occupé toute la conversation de la mienne ce week-end. On a enfin parlé d'un autre sujet. Et le plus dur, c'est les taxis parisiens. Un mois après avoir vu la gauche repasser à Paris, pouf, crise du carburant, c'est vraiment pas la bonne période. Alors, il y a une semaine, le gouvernement a déclaré qu'il n'y avait pas de risque de pénurie grâce à nos réserves stratégiques. J'espère qu'ils vont pas nous refaire le coup des masques anti-Covid. On était censé en avoir plein. Et en fait, on a eu...
Français. En fait, on n'a plus rien.
Voilà.
On croyait qu'on avait des stocks et...
Alors j'ai décidé de confiner vos voitures dans vos garages. Pour ceux qui se chauffent au fioul, téléchargez l'application Tous Anti-Cuve Vide. C'est amusant.
Je suis fou.
En France, on n'a pas de pétrole, mais on a Maud Bréjon à 8h30.
À 8h30, il est 7h28. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal sur RMC. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Ils sont entrés dans l'histoire. Les quatre astronautes de la mission Artemis 2 ont bien fait le tour de la Lune. Une première sous les yeux du monde entier. On vous raconte tout dans un instant. Détruire l'Iran en 4 heures. C'est la menace que Donald Trump menace de mettre à exécution avant la fin de son ultimatum la nuit prochaine. En France, face à face entre syndicats et gouvernement sur le blocage des prix des carburants à venir aujourd'hui. Et le feu d'artifice d'un mariage soupçonné d'avoir empêché un avion d'atterrir à Orly dimanche.
Ils ont vu la Lune comme aucun œil humain avant eux.
Les quatre astronautes de la NASA dont on a été sans nouvelles pendant 40 minutes cette nuit. Le temps qu'ils battent le record du vol habité le plus lointain à plus de 400 000 km de la Terre. Le temps aussi d'observer la face cachée de la Lune, exploit diffusé en direct sur Internet. Particulièrement scruté à la Cité de l'Espace de Toulouse où vous êtes en direct pour RMC Jean-Wilfried Forquès. Jean-Wilfried, faire le tour de l'astre, c'était le moment fort de cette mission Artemis 2 pour les experts.
Oui, il est encore ému, l'astrophysicien Sylvestre Maurice qui est à mes côtés, bonjour.
Oui, bonjour.
Une vraie émotion, vous me disiez ?
Ah oui, une émotion tout à fait personnelle. Moi, j'étais trop petit la dernière fois, donc voilà, j'en ai bien profité.
Cette expérience, faire le tour de la Lune, ça permet quoi ?
Alors c'est jamais simple, hein. C'est une validation cette fois-ci technologique. Eh bien, il faut aller très vite, il faut tourner, là ils étaient à haute latitude. Cette fois-ci, c'est préparer la prochaine mission, ou les prochaines missions, ça sera Artemis 3, Artemis 4, pour se poser enfin sur la Lune. C'est un peu du repérage en quelque sorte.
Dans combien, 10 ans, 20 ans ?
Oh non, je sais pas, on a du mal à... Je sais pas, une administration américaine voudrait aller plus vite que ça. On verra, il faut se donner du temps pour bien le faire. C'est complètement différent de la fois précédente. Là, c'est une excellente validation, un pas après l'autre, disons.
Victor, le vol retour a débuté il y a quelques heures maintenant. Il va durer quelques dizaines d'heures. On rentre sur Terre à 40 000 km/h. Arrivée prévue, en principe, si tout va bien, samedi.
Forquès, Jean-Wilfried Forquès, en direct de la Cité de l'Espace de Toulouse, aux côtés de l'astrophysicien Sylvestre Maurice, toujours dans les airs. Mais cette fois, rien ne s'est passé comme prévu dimanche pour ce vol EasyJet qui devait atterrir à l'aéroport d'Orly, mais qui a dû remettre les gaz au dernier moment. Pourquoi, Cassandre Brault ? Eh bien, à cause de tirs de mortier d'artifice à deux pas de la piste, selon les premiers éléments de l'enquête.
Oui, comme en témoigne Philippe, son entreprise est située à Villeneuve-le-Roi et il a bien entendu des feux d'artifice dimanche.
Ce qui m'a surpris, c'est la direction. C'était en direction des pistes d'Orly.
Alors, quand il comprend qu'un avion s'approche pour atterrir, mais reprend finalement de la vitesse, il est intrigué.
Quand il a remis gaz, j'ai jeté un œil. C'est vrai que j'ai vu que l'avion tire décollé. Bon, je me suis dit, c'est suite aux feux d'artifice, qu'ils ont fait, quoi. C'est pas trois pétards que font péter des gamins. C'est quand même des feux d'artifice assez conséquents.
Des feux d'artifice qui venaient peut-être du convoi d'un mariage. Pour Daniel Guérin, le conseiller département départementale de Villeneuve-le-Roi. Les auteurs de ces tirs, dit-il, sont totalement irresponsables.
Si une fusée de mortier tape au mauvais endroit l'avion, ça peut avoir des conséquences désastreuses pour les gens qui sont dans l'avion et pour les gens qui sont sous l'avion.
Aucun feu d'artifice n'a touché l'appareil, d'après EasyJet, qui confirme que le commandant de bord a choisi d'effectuer une remise de gaz de routine en raison de la présence supposée de feux d'artifice à proximité de la piste.
Et dans cette affaire, il n'y a eu aucune interpellation pour le moment. Échange de tirs de missiles tôt ce matin entre l'Iran et Israël. Quelques heures après ce nouveau discours de Donald Trump, son ultimatum maintenu pour 2h du matin, heure française, la nuit prochaine, sans accord de paix, sans réouverture aussi du détroit d'Hormuz. Le président américain promet une attaque éclair pour détruire les centrales électriques et les ponts iraniens.
Et chez nous, pour contrer la flambée des prix à la pompe, les syndicats ont rendez-vous au ministère de l'économie aujourd'hui.
Le premier rendez-vous du type depuis le début de la crise, depuis que le gazole frôle les 2,30 euros en moyenne et que le samplon 95 est à 2,01 euros. L'objectif, c'est de pousser le gouvernement à élargir les aides, Victor Joannin.
Oui, les premières mesures d'aide décidées par le gouvernement ont ciblé les entreprises dans les secteurs les plus touchés, l'agriculture, la pêche et les transports. Mais les syndicats poussent pour que les salariés soient directement soutenus, en particulier celles et ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, plaide la CFDT, en citant les aides à domicile, les personnes dans le médico-social ou encore les agents de la fonction publique. D'autres syndicats appellent l'État à bloquer les prix à la pompe, à l'image de la CGT, pas plus d'1,70€ par litre, une mesure qu'il va falloir financer, reconnaît la dirigeante confédérale du syndicat en charge de l'énergie, Virginie Neumeyer.
Il faut un financement au travers des bénéfices des grands groupes de l'énergie, avec des taxes les concernant, et bien sûr travailler aussi sur les plus hauts revenus.
Les syndicats attendent des mesures fortes de la part du gouvernement. Le Premier ministre Sébastien Lecornu envisage de nouvelles aides ciblées qui devraient justement être dévoilées en ce début de semaine.
Et ne manquez pas les deux prochains invités sur RMC. Dans quelques minutes, Michel Picon, le représentant des entreprises de proximité, il dit qu'il faut aider en priorité les infirmiers, les taxis, les entreprises du BTP. Et puis à 8h30, la ministre de l'énergie et porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, sera mon invitée.
Le très bon bilan des stations de ski. La plupart des remontées mécaniques ont fermé hier. Des records de fréquentation annoncés dans les Pyrénées. On a déjà presque basculé en été. Les 30 degrés souvent dépassés dans le sud-ouest hier et le beau temps partout, ça va durer au moins jusqu'à samedi. Mais en attendant, c'est aussi le retour des grands soirs de Ligue des Champions sur RMC. Début des quarts de finale aller et pression maximale sur Kylian Mbappé. Son Real Madrid affronte le Bayern Munich à 21h. Le Français, tout juste revenu de blessure, est déjà très critiqué en Espagne, Edgar Grollo.
Avec Kylian Mbappé, la presse espagnole n'y va plus de main morte.
C'est le Mbappé Football Club. Il fait tout pour lui-même. Mbappé n'a pas compris ce qu'était le Real Madrid.
Ces critiques qui arrivent jusqu'aux oreilles de l'entraîneur madrilène Alvaro Arbeloa.
Mbappé sait parfaitement ce qu'est le Real Madrid. J'entends beaucoup de critiques, mais je ne sais pas s'il existe un entraîneur qui ne voudrait pas lui dans son équipe.
Le manque d'investissement défensif de Kylian Mbappé est pointé du doigt à Madrid, alors son coéquipier Vinicius Junior prend sa défense.
Bien sûr que ces critiques me dérangent, mais les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça va être un match compliqué où les meilleurs joueurs font la différence et Mbappé fait partie de ces joueurs.
Mais au Real Madrid, être dans le viseur des supporters est un passage obligatoire selon le journaliste Pablo Polo du quotidien Marca.
Nous on a vu supporters critiquer Zidane, Ronaldo Nazario, Cristiano. C'est le Real, c'est très exigeant et on essaye toujours de trouver, pas des polémiques, de trouver pourquoi le Real n'arrive pas à gagner, voilà.
Distancé en championnat, le Real ne rêve plus que de Ligue des Champions, une dernière chance pour Kylian Mbappé d'éviter une deuxième saison sans titre majeur à Madrid.
Et l'autre match du soir, ce sera Sporting Portugal contre Arsenal. Le PSG défiera Liverpool demain. Ce sera aussi à suivre sur RMC.
Puis les courses, le quintet, c'est à Deauville.
Départ 13h55, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, le numéro 3, Célestial. Son outsider, le 6, Watchim. Le 3 et le 6.
C'était le journal de Victor Porcher. Il est 7h38 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il faut aider en priorité les infirmiers, les taxis, les entreprises du BTP, des professionnels très dépendants du carburant. Voilà votre combat depuis des semaines auprès du gouvernement. Michel Picon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes le représentant des entreprises de proximité. Vous dénoncez aussi l'augmentation des prix des matériaux jusqu'à plus 20% sur le béton, la laine de verre, le polystyrène. Des grossistes qui en profitent. Et vous qui nous appelez au 3216, dites-nous si vous êtes touché par ces hausses de prix du carburant, mais aussi ces hausses des prix des matériaux. Je vous attends pour témoigner. Michel Picon aussi vous répond dans un instant. Restez bien avec nous, il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Très belle journée à l'écoute d'RMC. Il est 7h42. Des aides ciblées pour les professionnels les plus touchés. Voilà votre combat, Michel Picon, bonjour. Vous êtes le président de l'UDEP, qui représente les entreprises de proximité, ces 3 millions de petites entreprises. Vous négociez depuis plusieurs semaines avec le gouvernement pour tenter d'obtenir des aides ciblées sur 3 secteurs, les infirmiers libéraux, les taxis, les entreprises de travaux publics. Pourquoi eux ?
Parce que ce sont les plus affectés, ce sont des gros consommateurs de carburant, et puis pour la plupart d'entre eux, leurs prix sont bloqués. Ils sont bloqués parce que dans une entreprise, quand vous avez une augmentation...
Leurs tarifs, en fait, sont bloqués à la fin.
Oui, les prix de vente aux consommateurs ou les honoraires pour l'infirmière. Ils n'ont pas la capacité de répercuter, comme peut le faire un commerçant, j'ai une augmentation de mes coûts, j'augmente mon prix de vente. Bien sûr, il faut-il que le consommateur continue à l'acheter. Donc pour nous, ils nous sont parus prioritaires, et puis surtout parce que leur situation économique risque de les mettre en danger, voire les faire disparaître. Je pense aux entreprises de travaux publics, par exemple, qui, dans tous les territoires, sont les gens qui s'occupent des routes, des chemins, des fossés, après les inondations, avec leurs gros tractopelles, etc. Ils arrivent à facturer un prix de l'heure inférieur à la consommation de carburant.
On va y venir aux entreprises de BTP, mais prenons un instant sur ce que vous disiez, c'est-à-dire infirmiers et taxis, par exemple, dont les tarifs sont en réalité bloqué. Le taxi, il a un taximètre dans sa voiture, le tarif, il est bloqué, il est négocié de temps en temps, mais pour une longue période, il est bloqué. Pareil pour les infirmiers dont les actes sont facturés selon un barème. Ce que vous demandez, c'est quoi ? C'est des aides, c'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent ? Ou c'est de leur permettre de facturer plus cher ?
Non, mais pour les infirmières, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie, la Sécurité sociale, qui rembourse le montant de leurs kilomètres.
De leurs actes.
Donc, ce qu'il faut, c'est que la Caisse nationale d'assurance maladie réajuste leur tarif. Pour les taxis, il faut évidemment qu'on fasse un réglage intermédiaire du coût du kilomètre pour que l'augmentation du carburant soit répercutée. Tout le monde connaît l'état des finances de notre pays. Donc, cette crise, elle est douloureuse. Je pense, moi, je défends les infirmières, les taxis, le bâtiment, on va en parler, mais aussi tous les Français sont affectés par cette crise. Il faut discerner ceux pour qui c'est difficile de ceux pour qui il y a un risque de disparaître.
Il y a un risque vital, quasiment.
Voilà, il y a un risque vital de perdre son activité quand l'entreprise est par terre. Il y a déjà eu, l'année dernière, près de 70 000 petites entreprises qui sont parties en défaillance. Il faut qu'on soit extrêmement prudent, sinon c'est tout le tissu économique des petites TPE qui va souffrir.
Vous dénoncez également pour les entreprises du bâtiment le fait que non seulement pour eux les prix du carburant augmentent et ils en sont très dépendants, mais également le prix des matériaux, le béton, la laine de verre, le polystyrène ont augmenté.
Oui, vont augmenter. Les fournisseurs, les grossistes en matériaux de construction annoncent des hausses qui vont de 5, 10, 15, voire même 20%.
Vous savez quoi ? On va même poser la question directement à Olivier parce qu'il nous appelle au 3216, je crois. Bonjour Olivier.
Bonjour Pauline.
Comment ça va Olivier ? Vous êtes gérant de société BTP dans l'Ain, du côté de Montieu. Vous les voyez, vous, ces hausses de prix quand vous commandez vos matériaux ?
Tous les soirs de la semaine dernière, je les ai reçus. Chaque jour, je recevais un mail. Un coup, c'était Vika, un coup, c'était Eiffage. Chaque jour, j'ai reçu, suite à la hausse des carburants, nous vous augmentons temporairement.
Temporairement.
La dernière fois qu'ils nous ont dit ça, c'était pour le Covid, et c'est jamais redescendu. Hein, donc,
Mais là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque jour, c'est au jour le jour, c'est toutes les 24 heures, on vous dit, le béton, il va prendre tant ?
Non, alors, ils nous ont, chaque jour, c'était des fournisseurs différents qui nous ont augmenté pour le mois d'avril, par exemple. Et on verra, en début mai, si on continue à augmenter les tarifs.
C'est assez hallucinant. Sur quoi il justifie ça ? Sur le transport ?
Ah bah justement, c'est la bonne question. À chaque fois, il y a une bonne justification. Mais comme je leur ai dit une fois à Vika, pour ne pas les citer, je leur ai dit, mais attendez, quand il y a eu la dernière crise pétrolière, vous avez augmenté les prix. Mais quand le gazole était redescendu à 1,50€, vous n'avez jamais redescendu vos prix. Donc il y a un moment, il faut que ça soit donnant, parce qu'on n'y arrivera plus.
Vous allez faire quoi, vous ?
Je vais vous donner un exemple tout simple, ce que disait le monsieur juste avant. Un camion de BTP, ça consomme 200 litres de carburant par jour.
Ouais.
Là-dessus, vous mettez 2 euros le litre. Vous êtes à 400 euros. Un chauffeur, avec ses charges, il coûte à ma société 250 euros. Donc, ça fait 650 euros. Combien se loue un camion de BTP par jour ? 630 euros. Donc, ça veut dire que, non seulement il me coûte de l'argent de le sortir, et en plus, je n'ai même pas payé ni le crédit du camion, ni son assurance, ni son usure.
On dirait un exercice, un problème de maths, mais effectivement, qui en l'occurrence est tout à fait insolvable. Olivier, vous êtes prêt à quoi ? À manifester ? Qu'est-ce que vous allez faire ?
Ah bah, je pense que notre ami, il va falloir qu'il fasse attention, parce que les agriculteurs avaient des moyens, mais dans le BTP, vous savez, quand on met un bulle de 50 tonnes en travers d'une route, on peut plus bouger, que ça soit avec un fanfare ou n'importe quoi. Donc les entreprises vont très mal. Il y a beaucoup d'entreprises, bah, je vous ai eu lundi dernier au téléphone, je vous ai annoncé que j'avais vendu 24 piscines à Foire de Lyon. Là, j'en ai encore vendu, donc nous, on a un carnet de commandes qui est plein pour la saison, il n'y a pas de souci. Mais je vais pas aller travailler pour perdre de l'argent. Donc c'est... il y a un moment...
Donc les commandes sont là, les commandes sont là, mais la question, c'est de savoir s'il y a des marges. Michel Picon, qu'est-ce que vous demandez à l'État ? Il y a quand même quelque part quelqu'un qui profite ?
Non, mais absolument. Alors, l'État a peu de moyens, les prix sont libres, chacun est libre de prendre le prix qu'il veut. Mais somme toute, l'État doit vérifier ce que moi j'appelle les profiteurs de crise. Déjà, il n'y avait pas 3 jours que la crise du pétrole commençait, que dans certaines stations, les cuves étaient encore pleines, on augmentait les prix. Bon, tout ça, c'est pas acceptable. Alors, il faut que les services de l'État, moi, c'est ce que je vais demander, parce que les aides, on peut demander des aides, mais ça veut dire que c'est...
En fait, vous demandez pas d'aide directe, c'est-à-dire vous demandez pas la charité, si je puis absolument résumer ainsi. Vous demandez, un, à ce que les tarifs puissent éventuellement augmenter lorsqu'on est taxi, par exemple, et qu'effectivement, on a normalement les tarifs bloqués dans le taximètre. Vous dites, bon, pendant le temps où il y a ces hausses, il faut pouvoir avoir une variation du tarif. Et par ailleurs, sur cette question des hausses des prix des matériaux, vous demandez à ce qu'il y ait des contrôle
absolument
pour s'assurer qu'il n'y en a pas qui en profitent.
Exactement, des contrôles pour contrôler les marges qui sont en train de se faire et des marges anormales.
Les marges, Olivier, est-ce que ça vous paraît juste de faire ça ? Je croyais qu'Olivier était encore avec nous, mais je crois qu'il a dû repartir bosser, Olivier, parce qu'effectivement, à 7h49, j'imagine que ça fait un petit bout de temps qu'il est déjà sur les chantiers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michel Picon, ce matin, président de l'UDEP, qui représente donc les entreprises de proximité. Il est 7h49 sur RMC. Tiens, j'ai quand même une dernière question, Michel Picon. Ça vous concerne pas forcément, parce que c'est pas c'est plutôt les très grosses entreprises et les salariés des grosses boîtes. Mais l'épargne salariale, la débloquer, ça vous paraît une bonne idée ou pas?
Ni une bonne idée, ni une mauvaise idée. Ça sera un effet d'aubaine pour quelques cadres et cadres supérieurs qui ont des plans d'épargne d'entreprise garnis. Ça servira pas, malheureusement, parce qu'ils n'en ont pas, la majorité des gens qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour faire le plein à la pompe.
En fait, ça se trompe de cible, quoi.
Ça se trompe absolument de cible.
Merci, il est 7h50 et Cécile Duflot est entrée dans ce studio. Bonjour Cécile. Bonjour, la voix de gauche ce matin. 265 enseignants en moins dans l'Académie de Lille, 170 dans celle de Versailles, des fermetures de classes. Ce matin, vous dénoncez une gestion comptable des postes dans l'éducation nationale.
Oui, on annonce 4000 enseignants en moins à la rentrée prochaine. C'est très dommage parce que pour l'éducation, c'est un investissement, vous allez le voir, très rentable.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h50 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, Cécile Duflot. Mais d'abord le bonus, Mathieu, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures.
Ah, faut croire que c'est dans les vieux tubes qu'on va trouver les succès d'aujourd'hui. Alors qu'il vient de publier des nouveautés, cette chanson de 2010 de Christophe Maé qui connaît un grand succès en ligne. Alors pas tant pour ce refrain dont vous vous souvenez peut-être, mais pour ça. Ce j'avoue qui introduit chaque couplet est repris, détourné sur TikTok et il devient viral. On le retrouve sur des milliers de vidéos qui font des millions de vues. Ça amuse le chanteur qui a même identifié des internautes qui étaient pas nés quand la chanson est sortie. Idem pour Katy Perry, portée par TikTok, son dernier album patine, qu'à cela ne tienne, cette chanson de 2013, plus 1400% d'écoute en quelques jours. Ou alors même pour une autre chanson, tiens. Celle-ci est de 2013. Bref, les réseaux sociaux font ressortir des chansons parfois oubliées, comme celle qui a été la plus écoutée sur TikTok en 2025, qui est de 1962.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
Et ce matin, c'est la voix de gauche comme tous les mardis. La rentrée 2026 va être sanglante. Voilà l'alerte des syndicats d'éducation nationale. 4000 postes d'enseignants en moins. Pour vous, Cécile Duflo, il faut arrêter avec, je cite, cette gestion comptable.
Oui, c'est un très très gros retour en arrière. On n'a jamais vu ça depuis Nicolas Sarkozy qui avait cette idée, non remplacement d'un fonctionnaire sur deux, une vision très idéologique, donc c'est un signal politique fort. En fait, c'est une décision qui est un peu présentée comme technique, alors qu'en fait, c'est fondamentalement un choix de société. On est dans un contexte qui est déjà fragile pour l'école. Au regard de toutes les analyses internationales, les résultats scolaires en France stagnent ou reculent et les inégalités dans notre école s'accroissent.
Enfin, en même temps, on fait plus d'enfants. Donc à un moment, ça veut dire qu'il y aura moins d'enfants dans les écoles quand même, non ?
Eh bien ça, c'est pas si évident que ça. D'abord, moins d'élèves, moins de professeurs, c'est pas une évidence au regard notamment des données publiques. D'abord, on a des classes plus chargées que la moyenne de l'OCDE. Donc ce serait logique que les classes diminuent. Et surtout, on a un système français qui est structurellement inégalitaire. L'école de la République, elle produit plus d'inégalités qu'elle ne contribue à les faire baisser.
Donc qu'est-ce qu'il faut faire ?
Eh bien, il ne faut pas se dire que la baisse démographique impose mécaniquement des suppressions de postes. Ça semble logique comme ça, alors qu'en fait, au contraire, c'est un levier pour améliorer le système à coût constant. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dépenser plus, mais de dépenser autant, mais de permettre de rapporter de l'argent. Parce qu'il y a une étude qui a été publiée par l'Institut des politiques publiques en juin, qui est basée sur les données publiques et qui montre que supprimer des postes, les postes tels que c'est prévu, là, c'est environ 3,4 milliards d'économies. Mais les conserver et changer notre système scolaire, donner plus d'attention aux enfants, ça rapporte à long terme 7 milliards d'euros cumulés. C'est-à-dire qu'au final, ça nous rapporte 3,6 milliards. C'est-à-dire que cette petite économie, c'est finalement se priver d'argent dans le futur. Parce que le recul du nombre d'élèves par classe, ça permet d'améliorer le ratio élèves-enseignants et ça permet justement d'aller mieux. Donc le vrai sujet, c'est de sortir d'une logique budgétaire et d'avoir une logique éducative.
Donc ça veut dire que la question, ça ne doit pas être combien d'élèves en moins, mais qu'est-ce qu'on fait justement avec cette marge, avec cette opportunité ?
Exactement, au lieu d'avoir des classes de 30-35 élèves, on fait baisser le nombre d'élèves par classe. On a des remplaçants quand on en a besoin. Quand il y a un enseignant, une femme qui part en congé maternité, qui n'est pas remplacée, que ça désorganise tout le reste de l'école, que ça fragilise les enfants, on arrive à mieux faire marcher le système. Et donc, il ne faut pas appliquer une logique uniquement budgétaire, mais plutôt avoir cette logique qui est une logique d'investissement pour éviter d'hypothéquer l'avenir, parce que l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de notre pays, tout simplement.
Donc, moins d'enfants par enseignant, c'est une opportunité.
Exactement, c'est mieux d'école, profitons-en.
C'est mieux d'école, voilà le message ce matin de notre voix de gauche, Cécile Duflo, qui est avec nous tous les mardis, tous les jeudis. Demain, ce sera donc la place à la voix de droite, Louis Sarkozy. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une ces départements de France qui lancent l'alerte. L'entretien des routes coûte trop cher. Et si on en croit Michel Picon il y a un instant avec les coûts des matériaux, ça va aller de pire en pire. Reportage donc de notre correspondant à Lyon, vous l'entendrez. Côté météo, Géraldine de Mori nous le dira dans un instant. Il va faire très beau et très doux. Et puis juste après le journal, il y aura l'économie avec vous, Emmanuel Le Chip. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
On va continuer à parler des prix du carburant avec vous parce que Total doit annoncer aujourd'hui si oui ou non ils poursuivent l'opération prix bloqué.
Et Total a intérêt à poursuivre cette opération prix bloqué.
Stop ou encore pour les prix bloqués. La réponse, c'est donc les explications d'emmanuel Le Chip juste après le journal de 8h. Et n'oubliez pas, à 8h30, mon invité dans le face-à-face, ce sera la ministre de l'énergie et porte-parole du gouvernement, Maud Bréjot. On se retrouve dans un instant, il est 7h56.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h58 sur RMC. Il fait beau et doux, Géraldine.
Extrêmement doux. On peut même parler de chaleur, hein, puisque le seuil de chaleur est à 25 degrés et on va fréquemment le dépasser. Alors ce matin, c'est une France contrastée quand même, parce qu'il fait encore frais dans le nord-est, hein, 1 degré par exemple à Reims, mais on a déjà 22 degrés à Biarritz. Et puis cet après-midi, on a des températures qui vont être souvent 6 à 10 degrés au-dessus des normales. Alors sauf près de la Méditerranée, où pour le coup, on a vraiment des températures beaucoup plus classiques, avec 18 à Nice cet après-midi. Il fera 20 degrés à Montpellier comme à Lille, 22 à Marseille, 23 à Brest, 24 à Paris, à Toulouse, 25 à Nantes, 26 à Lyon, Grenoble, 27 à Bourges, jusqu'à 28 pour Bordeaux, Clermont-Ferrand et Limoges. Et avec vraiment beaucoup de soleil sur tout le pays. On a quelques plaques de grisailles localement près de la Méditerranée ce matin. Elles vont être quand même rapidement dissipées. En journée, soleil partout, simplement parfois un petit peu plus voilé vers l'Atlantique, mais ça ne vous gâchera vraiment pas la journée. Et on va continuer comme ça encore demain. Il fera même encore plus chaud avec 25 degrés de moyenne sur tout le pays. Beaucoup de soleil aussi mercredi. On aura quelques nuages qui vont commencer à arriver par le nord-ouest avec une petite baisse de température.
Dans une poignée de secondes, il sera 8h, 7h59 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Plein de questions ce matin dans l'actualité. Dans quel état seront nos routes dans 10 ans? C'est l'une d'entre elles. Vous allez voir que les départements n'arrêtent pas d'alerter sur le manque d'argent pour les entretenir. Les routes, RMC est en direct du département de l'Ain ce matin. Pourrez-vous prendre l'avion normalement cet été? Vous verrez qu'en plus de la flambée des carburants, il y a flambé aussi du kérosène. Les prix ont plus que doublé et le secteur alerte ce matin avec la guerre au Moyen-Orient. Et aurez-vous vos places pour les concerts de Céline Dion? Les préventes commencent ce matin pour ceux qui ont été tirés au sort.
Et c'est donc une nouvelle alerte que font ce matin sur RMC les départements face à l'état de nos routes.
Oui, les départements gèrent, comme leur nom l'indique, les départementales. C'est 80% de nos routes quand même, mais ils répètent année après année qu'ils n'ont pas les moyens de les entretenir correctement et que la situation devient problématique par endroit. Vous l'avez constaté et vous nous le racontez depuis le début de la matinée. Vincent Chevalier, correspondant de RMC à Lyon, en direct ce matin, vous avez roulé sur les nids de poules et le mauvais bitume dans le département de l'Ain.
Oui, du côté de Cerdon sur la départementale 1084, fermée plusieurs fois ces dernières années à cause des éboulements de roches, ces chutes endommagent des routes déjà bien dégradées selon ses habitantes.
Je pense qu'il y a une dégradation de l'entretien des routes départementales.
Ça se voit comment ?
Des trous, des fissures.
Ben, quand on roule déjà, puis à l'état de nos voitures après aussi, hein, à la force de rouler sur ces routes, on abîme les coques des voitures, les pneus.
Les départements gèrent 380 000 km de route et ils n'ont plus le budget pour ça. Les retards d'entretien s'accumulent, le prix des matières premières flambe, notamment le bitume et les énergies, sans compter les aléas climatiques extrêmes, plus fréquents et plus intenses. Alors, il faut absolument trouver un nouveau système de financement de la route, alerte François Sauvadet, président de l'Assemblée des départements de France. L'association a déjà proposé plusieurs pistes au gouvernement.
Les ressources autoroutières, vous le savez que ça représente 2,5 milliards d'euros, doivent réfléchir non pas sur le ferroviaire comme c'est prévu, mais sur la route. Et puis le deuxième point, c'est que nous puissions récupérer les cartes grises. Les cartes grises sont financées par des automobilistes. Ce financement représente plus de 2 milliards d'euros.
Ces propositions ne sont pour l'instant pas reprises dans le projet de loi cadre sur le financement des transports présenté par le gouvernement en février dernier et désormais en attente d'examen de la part des parlementaires.
Voilà, l'argent des routes doit aller aux routes, c'est ce que disent les départements. Et on l'a bien entendu avec vous, Vincent Chevalier, en direct ce matin. C'était le choix de la rédaction sur RMC. Alors en plus de ça, au bord des routes, et vous l'avez sans aucun doute constaté, eh bien il y a toujours 20% des stations-service qui sont sous tension, avec au moins un carburant manquant. C'est en lien évidemment avec la situation au Moyen-Orient et avec l'ultimatum inédit, on va le dire, de Donald Trump, qui donne à l'Iran jusqu'à la nuit prochaine, 2h du matin, heure française, pour débloquer le détroit d'Ormuz.
Je parle de destruction totale et cela se fera en 4 heures si nous le voulons.
Voilà, 4 heures pour détruire l'Iran, dit Donald Trump depuis les États-Unis. Voilà dans quel contexte va se dérouler la réunion sur les prix des carburants qui aura lieu aujourd'hui à Bercy. Et alors il y a aussi le secteur aérien, le monde de l'aviation qui surveille cette situation de très près parce qu'on en parle moins que le prix des carburants. Mais le prix du kérosène a plus que doublé depuis le début de la guerre avec les conséquences inévitables sur les prix des billets pour ceux qui ont prévu de voyager ou qui regardent là pour les prochaines grandes vacances notamment. Romain Houck pour RMC, vous allez nous détailler tout ça. Ce matin, il y a le patron de la Fédération Nationale de l'Aviation qui parle carrément d'une crise majeure, il le dit dans la presse.
Oui, c'est même à se demander si l'on pourra partir en vacances en avion cet été. Le prix du kérosène a plus que doublé en un mois, passant de 750 à 1900 dollars la tonne. Et ça ne risque pas de s'arranger tant que le détroit d'Ormuz est fermé. La moitié du kérosène importé par la France vient des pays du Golfe. La part des carburants dans les coûts d'exploitation des compagnies aériennes est ainsi passée de 25 à 45%. Et certaines ont déjà commencé à augmenter leur prix. Prenons Air France, plus 100 euros l'aller-retour pour un vol long courrier en moins de 2 semaines. C'est moins fort sur les courts et moyens courriers, mais quand même plus 10 euros l'aller-retour depuis la mi-mars. Notez, est-ce important qu'une compagnie ne peut plus augmenter le prix de votre billet une fois que celui-ci a été acheté? Et pire, c'est l'ombre d'une pénurie qui commence à inquiéter les compagnies aériennes, à tel point que certaines ont carrément décidé d'annuler des vols. C'est le cas de la compagnie scandinave SAS. Express, de l'espagnol Volotea ou de Vietnam Airways. Selon le patron de Ryanair, c'est même une plongée dans l'inconnu. Si le conflit se prolonge tout le mois d'avril, il y aura des problèmes d'approvisionnement, lâche-t-il. Si c'est jusqu'en mai, qui sait ce qu'il risque de se passer.
Ça aussi, c'était une plongée dans l'inconnu. Les quatre astronautes de la NASA ont entamé, ça y est, leur chemin retour vers la Terre. Après avoir fait le tour de la Lune durant la nuit, en apercevant de leurs yeux des parties que personne n'avait jamais vues, personne n'était jamais allé aussi loin. On vous le racontait un petit peu plus tôt ce matin sur RMC depuis la Cité de l'Espace de Toulouse. Ils racontent qu'ils ont vu notamment des ombres brunes et verdâtres, ainsi qu'un très beau double cratère, disent-ils, qui ressemblait à un bonhomme de neige. Et ils seront de retour vendredi, normalement, aux États-Unis. Alors, sans aller aussi loin, il y avait un monde fou hier à la plage, sur les plages de l'Atlantique, dans le sud-ouest, avec les températures estivales qui seront encore autour des 30 degrés aujourd'hui. Promeneurs et surfeurs en profitent déjà. Écoutez au micro RMC d'Amélie Courtet, qui est au bord de l'Atlantique à Lacanau ce matin.
Levé de bon matin, 6h30, avant d'aller travailler et en balade avec mon petit chien, comme tous les matins, pour profiter de l'air marin. Ça fait très plaisir, surtout avec le début des vacances scolaires.
On est venu apprécier des conditions qu'on s'est dit qui étaient plutôt bonnes avant d'aller travailler, là où il est plus petite que les autres jours. Et tant qu'à faire, il fait beau, on se met à l'eau, il y a des belles couleurs et on va attaquer bien la journée.
C'est un petit bout d'été au milieu ou avant le printemps, voilà.
Courir sous la pluie, c'est moins, faut plus de motivation, quoi.
Là, c'est quoi les sensations ce matin?
Bon, ça va.
Ah, juste se sentir bien.
Voilà, levé de bonheur pour profiter de cette douceur, voire de cette chaleur dans le sud-ouest. Alors, il y en a qui vont pas du tout profiter du soleil aujourd'hui et qui vont passer une partie de la journée devant leur ordinateur pour tenter d'avoir des places aux 10 concerts. Vous savez, de Céline Dion sera en septembre et en octobre à la Défense Arena de Nanterre, à côté de Paris. C'est ce matin, 10h, que commencent les préventes. Ça dure 3 jours pour ceux qui se sont inscrits et surtout pour ceux qui ont eu la chance d'être tirés au sort. Lou Garnier en a interrogé quelques-uns pour RMC.
Romane était dans sa voiture quand elle a reçu cette notification tant attendue.
Félicitations, vous avez été sélectionnée. J'ai appelé ma grand-mère et j'ai hurlé. J'ai 9 millions de personnes. J'ai été prise, je trouve ça ahurissant.
Elle rêve d'emmener sa grand-mère voir Céline Dion en concert.
Il n'y a pas plus grande artiste féminine que Céline Dion. C'est le top du top.
Mais ce n'est que la première étape. Les tirés au sort vont recevoir un code et un lien pour accéder aux préventes, dont la première commence à 10h aujourd'hui. Robin le sait, c'est premier arrivé, premier servi. Alors pour espérer acheter 6 places, le maximum autorisé, il s'est bien organisé.
La bataille ne fait que commencer. J'ai un ordinateur avec 2 écrans, c'est le secret pour y arriver. Un écran avec le plan, quelle catégorie, comment c'est découpé. Un écran avec les places, tac, 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 et ça va jongler.
Les billets vont de 89 à 298 euros. Pour voir son idole, Robin ne se met aucune limite.
Céline Dion, je suis pas sûr qu'elle refasse des tournées après. Elle a une santé qui est encore un peu fragile. Juste entendre une version live de Céline Dion, je trouve que ça n'a pas de prix.
La billetterie accessible à tous ouvre, elle, vendredi à 10h.
Et à 30 000 places par soir pour chacune des 10 dates. Ça y est, on a la précision, 30 000 places pour ces concerts de Céline Dion en septembre, en octobre à Paris. Et alors, l'événement du jour en football, c'est le début des quarts de finale de la Ligue des Champions. 21h ce soir, on vivra ça évidemment sur RMC. Sporting, Arsenal, Real, Bayern, de belles affiches. En attendant demain, Paris contre Liverpool.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h07 et on parle économie bien sûr.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Lechypre.
Bonjour à tous.
Emmanuel, Total doit donc normalement annoncer ce soir ce qu'il décide de faire sur le plafonnage des prix du carburant. Ça expire normalement aujourd'hui.
Oui.
Stop ou encore ?
Total serait gagnant à continuer à plafonner les prix. Pourquoi ? D'abord parce
plafonnage,
que
plafonnage, j'avoue, j'étais pas tout à fait sûr de mon coup.
On parle enfin, de plafonnement
disons,
plutôt.
On va dire plafonnement.
On avait compris. J'ai fait le même. Ce plafonnement des prix, c'est d'abord un moyen pour Total d'améliorer son image dans l'opinion publique. Il faut rappeler que Total est depuis très longtemps une des grandes entreprises françaises qui a l'image la plus mauvaise. Hein. Rappelez-vous, le naufrage de l'Erika, c'est 99, mais dans les années 2010, déjà, Total est une des dernières entreprises en termes d'image. Et là, Total, bah, finalement, se donne l'image d'une entreprise qui défend le pouvoir d'achat des Français. Ensuite, ce plafonnement ne coûte pas si cher, puisque Total profite aussi de la hausse des prix du pétrole. Je vous rappelle quand même l'épisode de 2022, au moment de la guerre en Ukraine. Hein. La ristourne de 20 centimes, ça coûte 550 millions à Total, mais Total fait 19 milliards de profit, donc c'est quand même une goutte de coût dans un océan de profit. Et puis surtout, c'est un signal de bonne volonté envoyé à l'État pour échapper à une surtaxation de ses profits, une surtaxation à laquelle Total avait échappé en 2022 en France. Alors, il y avait bien eu une surtaxation européenne, mais qui ne lui avait pas coûté beaucoup.
L'État, qu'est-ce qu'il préfère ? Que Total arrête ou continue à plafonner ses prix ?
Alors, pour l'État, il y a du pour et du contre. Le plafonnement des prix chez Total, ça soulage immédiatement le portefeuille des automobilistes. Ça évite de financer une aide qui coûterait cher aux finances publiques, qui serait une véritable usine à gaz à mettre en place avant que les Français puissent récupérer un peu leur argent. Ça évite aussi, finalement, d'entrer en conflit avec une grande entreprise. Là où le gouvernement est gêné aux entournures, c'est par rapport à la désorganisation du marché des carburants que provoque ce plafonnement des prix. C'est vrai que c'est quand même une distorsion de concurrence, même si Total ne vend pas à perte, mais c'est quand même au détriment des stations indépendantes qui se retrouvent fragilisées. Et ça, l'État ne peut pas rester indifférent à cette problématique. Une solution, ce serait peut-être que Total continue à plafonner, mais peut-être en réduisant l'écart un peu quand même avec le prix.
C'est-à-dire
prix
pas global. Forcément à plafonner à 2 euros, voilà. Mais légèrement au-dessus. Je poserai la question évidemment aussi à la ministre de l'Énergie, Maude Bréjon, qui sera mon invitée à 8h30. Les prix du jour, on a eu où ? Ça monte, ça descend ?
Eh bien écoutez, sur le gazole, ça redescend un tout petit peu. On est à 2,28 €, on était à 2,30 € lundi. Sur le sans-plomb 95, c'est stable. Depuis plusieurs jours, on est autour de 2,01 € pour le sans-plomb 95. Le pétrole, eh ben petit coup de chaud pour le pétrole ce matin, au-dessus des 110 $. On était à 112,65 exactement ce matin. C'est plus que 110 $ pour la première fois depuis le 20 mars. Et puis le gaz, stable depuis quelques jours, baisse depuis le pic.
Même
à 61 €.
Même si on dit que le gaz pourrait considérablement monter en mai, mais ça je poserai évidemment la question à Maude Bréjon.
Pour le moment, en tout cas, ça n'est pas dans les marchés.
Merci Emmanuel. J'ai dit plafonnage, ça veut dire quoi Quentin ?
Plafonnage, c'est quand on construit un plafond. Mais là, j'ai la définition sous les yeux, c'est aussi quand on atteint la hauteur maximale, donc ça marche.
Bon, ça marchait finalement. Les plafonds stop ou encore. Donc merci Emmanuel Le Chypre. Il est 8h11 sur RMC. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Sur RMC avec Arnaud Demange comme chaque matin. Ensuite, il y aura Maude Bréjon, donc à 8h30. Et puis Nicolas Canteloup tous les jours sur RMC à 8h50 face à Canteloup. Restez bien avec nous, il est 8h11.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h14 et pour notre plus grand plaisir, il est là tous les jours. Salut Arnaud.
Mais non, c'est mon plus grand plaisir.
C'est mon
plaisir de vous retrouver, Apolline. Tiens, est-ce que vous avez eu votre place pour la billetterie de Céline Dion?
Non, pas encore.
Parce que le tirage au sort pour participer est quasi terminé. Apo, ça fait 8 jours qu'elle fait du playback avec une brosse à cheveux devant le miroir de la salle de bain. Son mec, il est là, chou, il est 2h du mat. Ouais, mais moi, je suis réveillé, j'ai la pêche, Céline revient. Ouais, tu veux pas aller voir Carla Bruni, ça fera moins de bruit. Donc, 9 millions d'inscrits, 400 000 places, ça me fait de la peine. Parce que j'ai calculé, pour contenter tout le monde, il faudrait faire 227 concerts à la Défense Arena. Là, le syndrome de la personne raide de Céline, il va revenir. Elle va finir vraiment raide, Céline. Donc aujourd'hui, il y a donc 8 millions et 600 000 déçus. Mais consolez-vous, pour mon spectacle, il reste des places. Moi qui suis un peu la Céline Dion de l'humour. Allez, c'est clair. Je vous propose de faire un peu rêver nos auditeurs ce matin. C'est la journée playback d'Apolline. Aujourd'hui, je vous emmène sur la Lune, les amis, par-delà les nuages, car on a des nouvelles photos de la face cachée de la Lune grâce à la mission Artemis 2. C'est fou parce qu'avant, on savait pas ce qu'il y avait là-bas. Enfin, on savait pas bien. On savait un peu. Moi, j'ai regardé un documentaire très bien fait sur RMC Découverte. Eh bien, en fait, sur la face cachée de la Lune, il y a une base nazie cachée dans une pyramide Inca dans laquelle les francs-maçons ont caché le trésor des Templiers, apporté sur place par les camions de l'extrême et surveillé par la police municipale de la Grande Motte qui est sur le qui-vive pendant tout l'été. Du butin, on s'est découvert. C'est vachement bien. Abonnez-vous. Alors, pour être sérieux, 2 secondes, j'ai vu les images de l'autre côté de la Lune. Ça ressemble un peu à Guéret.
dans la Creuse, un dimanche soir quand la nuit commence à tomber. Sinon, c'est beau la Terre vue de là-haut. C'est très beau. Hein. Mmh. À cette distance, on n'a pas l'impression que c'est rempli de connards. Alors, les astronautes d'Artemis 2 ont été victimes dimanche d'un problème de toilettes. Leurs toilettes sont bouchées et c'est pas la première fois. Ça doit être super sympa. À 4 dans 9 mètres carrés en apesanteur, avec des toilettes qui refoulent. 20 ans d'études pour vivre ça. Parce que à naviguer là au milieu. J'espère qu'ils vont faire un film.
Dans une station spatiale, autour de la Lune, quatre braves astronautes américains.
Houston, on a un problème. Les toilettes sont bouchées. Ok, on vous envoie Bruce Willis avec une ventouse.
Salut l'équipe, c'est Bruce Willis.
Bruce Willis, je croyais que vous aviez des problèmes cognitifs.
Bah, ma petite Paul, faut pas croire toutes les rumeurs.
Alors, le tien.
Où sont les toilettes? Je suis venu avec une pantouse.
Non, une ventouse, Bruce Willis. Ah ouais, il a vraiment des problèmes cognitifs. Il s'est trompé.
La guerre au Moyen-Orient fait exploser les prix du plastique. Bouteilles, emballages, tout pourrait manquer dans les prochaines semaines.
Ah ouais, ma petite Paul. Eh ouais, il faut planquer Rachida Dati.
Oh,
c'est un stock stratégique. Si un ingénieur de chez Total passe à côté, il va faire oh, un gisement. Parce que les Français consomment en moyenne 70 kilos de plastique par an. Un peu plus pour Patrick Sébastien.
Attends, le latex des préservatifs, c'est du plastique, c'est pas 70 kilos par an. C'est par semaine.
J'ai lu un article, c'est vrai, je vous jure, en Corée du Sud, les magasins sont déjà obligés de rationner la vente des sacs poubelles.
Ah, oui.
Vous imaginez si on a une pénurie de sacs poubelles en France? Comment elle va faire pour fabriquer ses tenues de scène, Théodora? Non, mais si vous avez déjà vu Théodora en concert, vous savez que je n'invente rien. Il va falloir trouver autre chose, du papier alu, du papier crépon, des filets à crevettes, des sacs à pommes de terre. Je déconne, Apolline, elle fait déjà tout ça.
Voilà. Alors, le ministre de l'Action des Comptes Publics, David Amiel, a déclaré que grâce à la hausse des prix de l'essence, l'État a engrangé 270 millions d'euros de taxes supplémentaires en mars.
Oui, c'est fou, Alain. Ben, c'est fou. Pas que l'État se gave en taxes, ça, on savait. C'est fou. On a un ministre qui s'appelle David Amiel.
Ah oui,
vous savez ça? Inconnu aux batailles, ils n'ont jamais entendu parler. J'imagine l'enfer de ces repas de famille.
Maman, il y a tonton, il dit qu'il est ministre.
Mais c'est vrai.
Mais attends, on t'a jamais vu chez Apolline de Malherbe.
Bah alors, mon pote Stanislas Guérini non plus, on l'a jamais vu chez Apolline.
Qui ça?
Bah, c'est bon, tu me saoules. D'abord, je suis vraiment ministre.
T'as vu, maman, il recommence.
Mais c'est vrai, mon chéri. C'est même à cause de lui qu'on a dû annuler le week-end à Disney, parce qu'il fait rien pour réduire les taxes sur l'essence. Hein, David? Tu revues du dessert? Connard?
Mais ça va.
Allez, Théo, arrête de donner au ministre des coups de pied dans le tibia, hein? Vise les couilles. Allez, courage, David. Et à demain.
Ah non, on peut pas faire ça.
Mais on peut, allez.
Oh, allez, on peut.
C'est la minute des codes, c'est l'instant où le cerveau est suspendu.
Arnaud Demange, qu'on retrouve tous les jours en podcast et à tout moment, évidemment. Il sera en tournée aussi à Reims, à Gaillac, à Bordeaux, à Toulon, à Hyères, au Garric, à Saint-Riquier ou à Orange. Un spectacle.
Et oui.
RMC, j'adore faire le
et
tour de France.
Et sur la face cachée de la Lune.
Le tour de France des spectacles d'Arnaud Demange. Il est 8h20 sur RMC. On va partir, on continue notre tour de France. Tiens, partons dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse. Bonjour, David. David,
allô,
vous m'entendez?
Oui, bonjour.
Comment ça va, David? Alors, vous êtes commercial en matériaux et en l'occurrence, je crois plus précisément en polystyrène, c'est ça?
C'est ça.
Ah bah alors, on est tombé sur la personne qu'il nous faut ce matin. Ça augmente ou pas les prix?
C'est la personne, mais je voulais juste redorer un peu notre blason.
Alors, parce qu'on nous dit que ça augmente les prix. On nous dit que vous les vendez à plus de 20% plus cher qu'au début de la crise.
Alors, oui, ça augmente, bien sûr, parce que on est, notamment sur le polystyrène, indexé sur l'industrie pétrolière, hein, sur le baril de Brent, comme vos auditeurs le disent. Maintenant, il faut savoir que nous, en tant qu'industriels, on a des délais de prévenance. On n'augmente pas du jour au lendemain. Et on augmente de façon tranquille, on va dire. Nous, aujourd'hui, personne n'augmente quasiment avant le mois de mai. On absorbe une partie des hausses. Et on n'augmente pas comme ça du jour au lendemain.
En fait, vous annoncez, vous commencez à dire que ça va augmenter, mais c'est pas encore le cas.
Bien sûr, ça permet aux négoces de matériaux, parce que moi je suis industriel, aux négoces de matériaux de se retourner, aux artisans de se retourner. Alors certes, hein, on est bien conscient que c'est pas simple, que c'est dur, et que c'est pas forcément, ils ont pas la possibilité forcément de les retranscrire sur leur devis, mais il y a toujours un laps de temps. Quand j'entends des augmentations dans 24 heures, ça prend 20%. On schématise en fait, grossièrement quand même.
En fait, ce que je comprends en vous écoutant, c'est que tout à l'heure, on avait un patron dans une petite entreprise de BTP qui disait chaque jour, je reçois un mail pour me dire que ça augmente. En réalité, c'était un coup un mail de ceux qui, effectivement, comme vous, vendent du polystyrène. Un coup, c'était un mail de l'entreprise qui lui fournit du béton qui annonçait qu'il y aurait des hausses.
Tout à fait. Okay. Tout à fait. Alors certains ont certainement augmenté avant. Nous, je sais qu'aujourd'hui, on a eu zéro augmentation avant le mois de mai. On a envoyé des courriers et les augmentations qui seront entre 4 et 8, 9% maximum, mais n'interviendront qu'au mois de mai.
Entre 4 et 8% maximum, voilà une information que vous nous donnez ce matin. Merci beaucoup David d'être passé par le 32-16. C'est génial, honnêtement, le fait de pouvoir
maintenant qu'il faut
avoir
son polystyrène.
Immédiatement, oui, c'est ça. Alors là, il y a celui qui boursicote à côté de moi, Emmanuel Le Chip, qui dit achetez du polystyrène, c'est le moment. Merci en tout cas.
Juste au coup.
J'en veux.
Merci à David. Il est 8h22. Dans un instant, mon invité, c'est précisément la porte-parole du gouvernement et ministre de l'énergie, Maude Bréjon. On va évidemment parler de la question des ruptures de stock dans certaines station essence, la question des prix, est-ce que ça va continuer à monter ou pas, et jusqu'à quand? Et puis la question des aides, ils ont promis, elle et Sébastien Lecornu, des aides ciblées. Elle nous en dira plus dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Maude Bréjon.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes la porte-parole du gouvernement et vous êtes la ministre de l'énergie. Très nombreuses questions, bien sûr, sur les ventes, les ruptures de stock éventuelles de carburant, sur les prix qui continuent à flamber, jusqu'où et jusqu'à quand? Et puis bien sûr sur les aides. Quelles aides? Est-ce qu'il y aura de nouvelles aides? Vous nous le direz ce matin. Les ventes d'abord. Retour de week-end de Pâques, week-end de 3 jours, et de nombreux Français qui se plaignent d'avoir dû parfois faire des kilomètres pour trouver une station qui vende tous les carburants. On en est où? Est-ce que vous dites ce matin qu'il y a, oui, des stations qui sont en rupture de stock?
Il y a des difficultés. Et il y a des difficultés qui sont dues à des problématiques logistiques de transport, essentiellement sur le réseau Total. Je vais y revenir. Ce que je veux dire ce matin, c'est que la matière, le pétrole, arrive en France. Il n'y a pas de problème au niveau des raffineries. Il n'y a pas de problème au niveau des dépôts. Il y a un engorgement sur les réseaux de transport et essentiellement sur le réseau de transport Total. Je vais vous donner un chiffre. Ce matin, à l'heure où nous parlons, il y a environ 18% des stations dans lesquelles il manque au moins un carburant.
Des stations globales, pas juste
des stations globales. 83% de ces stations, 83% des stations dans lesquelles il y a des difficultés sont des stations du réseau Total Énergie, parce que vous savez que Total a annoncé depuis plusieurs semaines un prix plafond qui amène à un écart significatif entre leur réseau de distribution et les autres réseaux de distribution ou indépendants, ce qui génère là encore une tension particulière dans le réapprovisionnement.
Rupture de stock sur un ou plusieurs carburants?
Sur un ou plusieurs carburants. Ce que je veux aussi dire, c'est que nous avons mis en place tous les moyens nécessaires pour permettre un réapprovisionnement rapide. Le taux s'est déjà amélioré par rapport à hier soir. Nous avons, pour la journée de lundi, donc lundi de Pâques hier, donné des dérogations de transport dans 3 zones de défense. 3 zones où Total a demandé des dérogations pour que les distributeurs puissent faire leur travail. 200 camions étaient sur les routes. Et aujourd'hui, là encore, pour ce réseau spécifique Total Énergie, il y a environ 900 camions qui seront sur la route pour réapprovisionner les stations, contre 600 en temps normal. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut s'attendre à une amélioration progressive dans la journée. À l'inverse, dans les réseaux qui ne sont pas des réseaux Total, on observait hier soir un taux d'indisponibilité d'environ 4% qui correspond peu ou prou à ce qu'on observe en sortie de week-end de Pâques.
Donc faible. Normal.
Normal par rapport à ce qu'on observe en sortie de
pénurie. Il n'y a pas de risque de pénurie. Ce que vous dites, c'est que c'est juste une difficulté
ponctuelle. Il n'y a pas de risque de pénurie. C'est la différence entre une pénurie de matière et des difficultés logistiques. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement, il n'y a pas de problème dans les raffineries. Quand les camions vont au dépôt, ils peuvent charger, il n'y a pas de difficulté, là encore, pour trouver le sans-plomb ou le gasoil, mais les réseaux de transport ont été particulièrement tendus ces derniers jours.
Ce soir, Total devra dire s'ils poursuivent ou non ce plafond des prix du carburant. Qu'est-ce que vous leur demandez et
qu'est-ce qu'ils doivent faire?
C'est évidemment à eux de le dire. Moi, je suis pas porte-parole de Total Energy. Ce que je dis, c'est que on demande et on continue à demander depuis le début avec le Premier ministre à l'ensemble des distributeurs d'être le plus raisonnable possible. Voilà. Et si dans les semaines à venir, on observe une accalmie sur le conflit, que le prix du Brent, du pétrole, diminue à l'échelle internationale, alors on sera particulièrement vigilant à ce que ces baisses soient répercutées aussi vite que les hausses l'ont été dans
le
passé.
Mais j'imagine que vous êtes dans la confidence. Est-ce que Total envisage de poursuivre?
C'est encore une fois de le dire. Nous, on demande à tous les distributeurs qui le peuvent de faire les efforts nécessaires. Mais je n'ai pas à demander ce matin sur votre chaîne à tel ou tel distributeur.
Celui-là, il a de quasi monopole quand même. Hein.
Pardon?
Celui-là, il est en quasi monopole. C'est pas n'importe quel distributeur. Enfin, j'ai Total.
C'est pas un monopole.
Total, vous pourriez leur dire de continuer l'effort.
Moi, je demande à tous les distributeurs qui le peuvent. De faire des efforts dans la mesure, voilà, d'encore une fois, de leur possibilité.
Encore une fois, je vous pose la question parce que certains ont dénoncé même, y compris leurs propres concurrents. Le patron d'Intermarché, par exemple, dit que Total a acheté 70 cargos de pétrole au tout début de la crise, ayant donc, en quelque sorte, acheté du pétrole pas trop cher, qu'ils vont revendre forcément un peu plus cher. Ils ont donc cette marge.
Ils ont fait un effort depuis le début du conflit, hein. Et on était bien content d'avoir ces plafonds à 1,99 et à 2,09 sur le diesel. On voit d'ailleurs que les Français les ont largement utilisés puisque ça a créé des problématiques de rupture d'approvisionnement.
Donc nous,
on continue et on continuera cette semaine à échanger avec l'ensemble des distributeurs pour les accompagner. S'ils font face à d'éventuelles difficultés, là encore, de transport pour l'approvisionnement des stations, et pour s'assurer qu'il n'y a pas de marge indue. Mais vous savez, depuis le départ, on n'observe pas de marge indue chez les distributeurs. Voilà, c'est ce que je...
Il n'y en a pas.
C'est ce que nous n'en avons pas observé.
Il n'y a pas de profiteurs.
Nous n'en avons pas observé pour les distributeurs depuis le départ. Vous recevez régulièrement les représentants de la grande distribution, notamment sur votre plateau, les marges qu'ils affichent aujourd'hui sont sensiblement les mêmes que celles qu'ils affichaient avant le début du conflit. Il n'y a pas eu de hausse indue.
On va y revenir parce que le Premier ministre avait utilisé au début de la crise l'expression d'abus. Il avait parlé de hausse abusive éventuelle de prix à la pompe. Il y avait eu ces vérifications.
Et il avait diligenté des contrôles.
Et les contrôles, pour vous, montrent qu'il n'y en a pas. Les prix, donc... Et on va voir si Total remonte ou pas. Mais en tout cas, les prix globales, c'est 2,28 € en moyenne côté gazole, 2,01 € côté samplon. Jusqu'à quand ça va monter?
Bon, d'abord, c'est une situation qui est extrêmement difficile pour beaucoup de nos concitoyens. Et on en est parfaitement conscient. On a commencé en aidant les secteurs les plus en difficulté. Ceux qui, au regard de cette hausse, ne pouvaient plus pratiquer leur métier. C'était l'exemple des pêcheurs. Les pêcheurs, quand le gasoil pêche atteint un certain niveau, il n'est plus soutenable d'aller en mer pour pêcher le poisson. Donc il fallait les aider extrêmement vite. Moi, je dis une chose ce matin, nous ne laisserons pas tomber les Français qui travaillent. Je pense aux aides-soignantes, je pense aux aides à domicile, je pense à certains agriculteurs qui font encore face à des difficultés particulières. Et donc, le Premier ministre s'est engagé à ce que un nouveau dispositif d'aide soit annoncée dans les jours à venir, là encore, pour venir en soutien des Français.
Pourquoi vous l'annoncez pas ce matin?
Des Français qui travaillent et qui font face à des difficultés particulières.
Mais vous vous rendez compte, pour chacun, j'imagine, les infirmiers, les infirmières qui nous écoutent, par exemple, ce matin, qui font leur tournée, dont les tarifs à l'acte sont bloqués, qui ne peuvent pas répercuter.
Moi, je leur dis que nous serons à leur côté. Le Premier ministre a demandé à l'ensemble des ministres, dont les secteurs sont concernés, de faire remonter les différentes propositions. Tout ça va être instruit et arbitré dans les heures ou dans les jours à venir. Mais mon message, il est simple, nous aurons encore une fois un nouveau dispositif d'aide dans les prochains jours pour les Français qui travaillent, qui font face à des difficultés.
Ça fait une semaine que vous dites qu'il va y avoir des aides.
Non, pardonnez-moi, il y a des aides depuis les premiers jours. Depuis les premiers jours, les agriculteurs, les pêcheurs, les transporteurs, nous avons été à leur côté, nous continuerons.
Mais vous savez qu'il y a certaines aides-soignantes, par exemple, et j'ai eu de nombreux témoignages sur RMC, qui disent
tout à fait.
Je préfère carrément arrêter d'aller bosser.
Les aides-soignantes, on pense aussi aux aides à domicile, qui sont parfois dans des situations encore plus compliquées, essentiellement dans les milieux ruraux. Et donc c'est pour eux, qu'encore une fois, on travaille à un dispositif.
Ils seront dans le prochain dispositif.
Un dispositif de soutien.
Ces catégories professionnelles seront dans le prochain dispositif.
Qui doit être ciblé. La facilité, serait de faire une aide universelle. Il n'y aura pas d'aide universelle.
Il n'y aura pas d'aide universelle. Il n'y aura pas de blocage des prix.
Il n'y aura pas de blocage des prix. C'est deux choses très différentes. Il n'y aura pas de blocage des prix.
Non, mais ce serait une sorte d'aide universelle au sens.
J'entends Sophie.
Ça aiderait tout le monde.
J'entends Sophie Binet qui demande un plafonnement à 1,70€. On ne sait pas bien pourquoi 1,70€ par ailleurs. Bon, eh bien, on voit d'ailleurs en ce moment avec ce qu'on vit sur les réseaux Total que ça amènerait, dans un laps de temps très rapide à des problématiques de pénurie.
Donc
et
ça, c'est
il n'y aura pas d'aide universelle parce que nous ne pouvons pas nous le permettre et parce que nous avons donc décidé de cibler les aides. Et c'est le choix que nous avons fait depuis le départ. Nous allons continuer à le faire. Cibler les aides vers les Français qui travaillent, vers les secteurs les plus en difficulté, vers celles et ceux, pour qui terminer le mois est encore plus difficile du fait de
la hausse des prix à la pompe. Je voudrais juste m'assurer que ceux qui nous écoutent l'ont bien compris. Les aides-soignantes, les aides à domicile, les entreprises peut-être du BTP, les taxis, est-ce que c'est ça les entreprises et les secteurs qui vont être ciblés par vos nouvelles aides ?
Ils font indéniablement partie des Français qui travaillent et qui ont du mal à boucler les fins de mois.
Donc c'est
ensuite,
eux qui seront aidés.
Il peut y avoir des situations différentes au sein d'un même secteur et c'est bien normal. Mais nous ne laisserons pas tomber les Français qui travaillent.
Jusqu'à quand est-ce que ces prix vont augmenter ?
J'aimerais pouvoir vous le dire. Il y a en réalité deux scénarios. Le premier scénario, c'est la calmie, dans les jours ou dans les semaines à venir. Et là encore, je suis extrêmement prudente, parce que la fin de la guerre ne signifie pas nécessairement un retour immédiat à une situation normale sur les prix de l'énergie. Et puis il y a un deuxième scénario, qu'on redoute tous, vous et moi, nécessairement davantage, c'est celui de l'embrasement. Et c'est contre ce scénario que travaille la France, quand elle maintient une posture uniquement défensive, quand elle met tout en œuvre pour contenir ce conflit et éviter autant que possible l'embrasement. Notre travail, c'est d'au fond être prêt pour les deux scénarios. Nous, on envisage tout depuis le début, on prépare les différentes possibilités, on est prêt à agir. Mais je n'ai pas ce matin devant vous de boule de cristal, je ne peux pas vous dire ce qu'il adviendra dans les jours ou dans les semaines à venir, quelles seront les décisions, par exemple, du président Trump, qui sont extrêmement imprévisibles.
Êtes-vous, comme le patron de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, qui s'exprime ce matin chez nos confrères du Figaro, très pessimiste, c'est ce qu'il dit, il est très pessimiste. La crise actuelle est plus grave que celle de 1973, 1979 et 2022. Il dit que tout cela, c'est énorme.
Alors, il dit quand même une chose qui, à mon avis, qui mérite d'être précisée. Il dit que les situations sont très différentes d'un État à un autre. Dans certains États, vous avez d'ores et déjà des difficultés d'approvisionnement, de rupture d'approvisionnement majeure. Pensez à l'Asie. Pensez à l'Australie, c'est pas le cas en France. Nous sommes bien moins dépendants pour le pétrole du Moyen-Orient que les pays asiatiques. Nous avons diversifié nos sources d'approvisionnement, donc nous sommes davantage protégés. Et puis, pardonnez-moi, nous sommes autonomes sur l'électricité. Notre parc nucléaire produit à plein et protège les factures d'électricité des Français. C'est une chance inouïe. Si vous comparez par rapport à l'Italie, électricité, 30% plus cher qu'en France, notamment parce qu'ils dépendent massivement du gaz pour leur production d'électricité, ce qui n'est pas notre cas. Nous avons la chance d'avoir un parc nucléaire qui, aujourd'hui, contrairement à des dizaines de pays, permet la stabilité sur le prix de l'électricité
sur le gaz,
et sur les factures des Français.
Sur le gaz, puisque vous le mentionnez, on parle d'une facture de gaz qui pourrait augmenter de 25% en mai. Est-ce que vous avez également ce chiffre ?
Il est trop tôt pour le dire, et je n'ai pas le chiffre de 25%. Donc je ne le
Est-ce
confirme
que vous
pas.
Pouvez nous confirmer,
en revanche,
cela dit, que la facture de gaz va augmenter en mai pour les Français ?
Il y aura très probablement une hausse, là encore, due à ce qui se passe sur le détroit d'Hormuz. Vous savez que 20% du gaz transite par le détroit d'Hormuz et que c'est un marché qui est un marché mondial.
Avez-vous calculé de quel ordre serait l'augmentation de la facture de gaz pour les Français ?
Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons connu en 2022. Absolument rien à voir.
Donc rien à voir, mais est-ce que vous avez quand même une idée ? Est-ce que ça sera plus 10%, plus 15% ? À quoi faut-il s'attendre en mai ?
Encore une fois, c'est un peu tôt pour le dire et ça va dépendre de ce qui va se passer dans les jours à venir. Donc on communiquera dessus quand on aura des chiffres stabilisés à donner. Mais je le redis, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons connu à la suite de la guerre en Ukraine.
Vous m'avez dit, il n'y a pas de profiteur. Le mot d'abus, je le disais,
j'ai dit que les distributeurs, notamment la grande distribution, n'affichaient pas de marge indue par rapport à ce qu'ils appliquaient en temps normal.
Alors, est-ce qu'il y a des profiteurs ? Est-ce qu'il y a d'autres profiteurs ?
Il n'y a pas, dans ce que nous avons observé, encore une fois, en France, dans les raffineries, dans les distributeurs, de profiteurs de crise. Et je n'emploie pas ce mot-là, qui est un mot qui, vous voyez, résonne même historiquement.
Je recevais ce matin Aurélie Trouvé, oui, de LFI sur RMC, qui évoquait Total en parlant de profiteur. Elle parlait de Total comme d'un profiteur. Elle proposait, un, le blocage des prix. Si le blocage des prix entraînait des ruptures, deux, la réquisition du pétrole et du carburant de chez Total. Et trois, éventuellement, à moyen terme, la nationalisation de Total. Qu'est-ce que vous répondez?
Bon, alors, d'abord, utiliser le mot de profiteur de crise. Lorsqu'on sait comment ça résonne dans notre histoire passée, sans étayer cette accusation-là, c'est grave. Pour quelque entreprise que ce soit. Sur la question du blocage des prix, je redis ce que j'ai dit. Le blocage des prix, c'est l'autoroute vers les pénuries.
Oui, mais elle disait dans ces cas-là, réquisition.
Assurée.
Je lui posais exactement cette question-là et elle répondait réquisition.
Mais réquisition de quoi? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'import sur le sol français s'il n'est plus intéressant d'acheter sur les marchés internationaux, s'il n'est plus intéressant pour nos acheteurs de nous vendre ce pétrole, dans un marché, encore une fois, qui est un marché en tension en ce moment, vous n'aurez plus rien à réquisitionner. Donc la question de la réquisition, elle est hors sujet. Vous n'aurez plus rien à réquisitionner, vous n'aurez plus rien à raffiner dans les raffineries françaises et vous n'aurez plus rien à vendre à la pompe. Je ne sais pas si vous êtes partie à Pauline de Malherbe ce week-end. Moi, je suis rentrée voir mes parents à quelques centaines de kilomètres. Je suis passée devant, effectivement, un certain nombre de stations-service avec de la rubalise autour. Stations-service qui donc étaient inaccessibles, qui étaient en rupture. Ça, ce sera le cas de toutes les stations-service si on va sur un blocage des prix.
Maud Bréjon, est-ce que c'est pas l'État qui est abuseur?
Non. Et ça, c'est un mensonge éhonté, une contre-vérité que certains partis politiques essaient d'imposer.
Marine Le Pen
dans
parle de l'État, oui, qui se comporte, je cite, comme un profiteur de crise. Elle dénonce des recettes indues. Non. Le ministre des Comptes publics a tout de même reconnu qu'il y avait un surplus fiscal de 270 millions en mars.
Alors, deux choses. D'abord, l'État n'est pas un profiteur de crise. En revanche, Marine Le Pen spécule sur le dos de cette crise. Elle spécule politiquement depuis les premiers jours de cette crise énergétique. Et c'est extrêmement grave. L'État ne profite jamais, jamais d'une crise pétrolière. Certes, vous avez une augmentation des recettes issues de la TVA, puisque les prix augmentent, mais elles sont immédiatement compensées à la baisse, par la baisse de la consommation, par exemple, par la hausse des taux. On emprunte plus cher sur les marchés, ça coûte davantage d'argent à l'État. Et donc, au global, l'État n'est jamais gagnant.
Au-delà jamais de la question gagnant. De la qualification de cette crise, je disais que le patron de l'AIEA parlait d'une crise extrêmement grave, d'un nouveau choc pétrolier. Vous venez d'évoquer la baisse de la consommation, la hausse des taux, on pourrait aussi parler de l'inflation,
la baisse de la croissance.
Et la baisse de la croissance. Est-ce que ça veut dire, Maud Bréjon, que le gouvernement se prépare à une crise économique?
Ça veut dire que le gouvernement se prépare à l'ensemble des scénarios. Je vous disais qu'il y avait
une crise économique.
On se prépare à un scénario d'accalmie, qui est celui que l'on souhaite tous. On se prépare aussi au scénario de l'embrasement au Moyen-Orient, qui entraînerait indéniablement des conséquences plus grave sur l'économie mondiale. Notre travail, c'est de se préparer à l'ensemble des scénarios.
Faut-il un budget rectificatif?
Aujourd'hui, il n'y a pas besoin.
Au regard de cette situation, le RN vous demande un budget rectificatif.
Pourquoi le RN nous demande un budget rectificatif? Parce qu'ils veulent imposer leur idée d'une TVA sur les produits énergétiques à 5%. Ça coûte 12 milliards d'euros. Et donc le sujet n'est pas est-ce qu'on est d'accord ou pas avec un budget rectificatif. Nous sommes en désaccord avec cette proposition. Tout simplement parce que nous n'avons pas 12 milliards d'euros à mettre sur la table. Et en un claquement de doigts, Apolline de Malherbe, ce que le consommateur ne paierait pas à la pompe demain, le contribuable le paierait après-demain par des baisses de crédit sur certains services publics ou par des hausses d'impôts. Nous ne voulons pas diminuer les crédits sur certains services publics essentiels comme la santé, la sécurité ou l'éducation nationale et nous ne voulons pas augmenter les impôts. Prenez l'exemple de l'Italie. L'Italie a fait une remise à la pompe. Qu'elle a prolongée d'ailleurs.
Mais peut-être parce qu'elle a fait le boulot avant.
Elle l'a fait en coupant des crédits.
En redressant un peu ses
comptes. Elle l'a fait en coupant des crédits. Elle l'a fait en coupant des crédits, là encore, sur des services publics essentiels.
Merci.
Il n'y a pas d'argent magique.
Merci Maude Brigeon d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes ministre de l'énergie et porte-parole du gouvernement. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.
Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Et ce matin, mon invité, c'était Maude Brigeon, porte-parole du gouvernement. Alors, on a bien sûr parlé des prêts flash carburant, en tout cas des aides ciblées. Et Bruno Le Maire, je crois, voulait réagir. Bonjour.
C'est au retour des années Le Maire. Hein, il pleut du fric, Mme Malherbe. Vous voulez 50 balles, mais allons-y, allez, c'est cadeau. C'est Bercy qui régale. Tiens, allez, les techniciens dans le fond. Et voilà 200 balles. Hein, ça vous permettra d'acheter du shampoing, du déo.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par le retour des années Le Maire?
Ah, ben c'est le retour de l'argent facile, comme pendant le Covid, souvenez-vous. Hein. Ouais. Ça fait exploser la dette, il le sait, Laurent Neumann. Et les boîtes, elles galèrent encore à rembourser aujourd'hui, 6 ans après. C'est pour ça que la petite Maude Brigeon, là, on l'a entendu, hein, on l'a senti qu'elle ramait. Hein. C'est plus Maude Brigeon. C'est Maude Fontenoy. Hein. Voilà. On sent qu'elle a du mal à le vendre, hein, son prêt flash carburant. Hein. Quand elle sera plus au gouvernement, surtout qu'elle n'essaye pas de postuler comme conseillère chez CTM ou chauffer un co. Hein. Hein, non, parce que si déjà elle n'arrive pas à refourguer son prêt à 3,80€, c'est même pas la peine qu'elle essaye les crédits revolving à 23%.
Vous ne pensez pas que ces prêts peuvent être utiles quand même?
Mais ça sert à que dalle. L'essence est déjà hors de prix. Si tu fais un crédit avec les intérêts, c'est plus 2,50€ qu'elle va te coûter l'essence. C'est 4€. C'est... Mais c'est des vins. Non, c'est vraiment des nuls, hein, merci. Et je ne sais pas le parler parce que c'est moi qui les ai formés.
Oh non, merci Bruno Le Maire. Maude Brigeon, vous nous confirmez donc qu'il n'y a pas aujourd'hui en France de pénurie de carburant.
Il n'y a aucune pénurie de carburant en France. Je répète, il y a juste quelques tensions, Madame de Malherbe, d'approvisionnement local et ponctuel concernant les produits pétroliers un peu partout. Chaque jour, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec des pénuries. Donc, arrêtons d'alarmer les Français pour rien.
Ça ressemble quand même beaucoup. Hein. Les prix à la pompe, d'ailleurs, continuent de flamber.
Non, mais arrêtons... de faire croire aux Français qu'on a un problème de hausse des prix des carburants. Il y a juste, oui, c'est vrai, des réévaluations régulières des tarifs en fonction des variations haussières des cours des hydrocarbures. Mais ça n'a rien à voir avec des augmentations. En plus, ces réévaluations concernent quoi ? On va se parler franchement. Ça concerne quoi? Ça concerne seulement le samplon 95E10, le samplon 98E5, le gasoil B7, le gasoil B10, le superéthanol E85 et le GPL. Donc, voyez, c'est extrêmement ciblé, extrêmement limité. C'est loin de toucher tous les carburants.
Bah, je crois que là, on les a tous, là.
Hein? OK.
Ouais, d'accord. Merci, Maude Brigeon. Sans plus attendre, on retrouve Pascal Praud pour les titres de l'actualité.
Et oui, bonjour, ma chère Apolline. Je suis bien entouré. Victor Pourchère, Arnaud Demange, Laurent Neumann, Thibaut Texer et les sous-fifres derrière. Heureux de vous retrouver après ce week-end de Pâques où nous fêtons la résurrection de Jésus qui est revenu d'entre les morts, mais un peu comme Philippe de Villiers. Ben oui, Philippe de Villiers, il y a 10 ans, Philippe, notre Philippe, c'était plus personne, on le sait. Aujourd'hui, c'est un de nos prophètes, ici, à CNews. Vous avez fait une chasse aux œufs dans votre jardin? Moi, oui. J'avais organisé ça avec les enfants du quartier, sauf qu'à la place des œufs au chocolat, j'avais caché des dattes pourries emballées dans du papier aluminium.
Oui.
Vous auriez vu, c'est vrai, il y avait beaucoup de déception dans les yeux des gamins. J'avoue que c'est un peu rude, mais je n'ai rien trouvé de mieux pour l'expliquer de la façon la plus simple ce qu'allait être le grand remplacement. Oh. Allez, c'est parti pour les titres. Oui. À Pâques, la tradition, c'est de cacher des œufs dans son jardin pour les enfants avec une variante dans la famille Fourniret. Eux cachent directement les enfants dans le jardin. Oh.
Et puis ce week-end, c'était donc Pâques et tout le monde cherchait quelque chose à Pâques. Les enfants cherchaient des œufs dans le jardin, les Américains eux cherchaient leur pilote en Iran, les Français eux cherchaient une station-service qui a encore de l'essence à moins de 2 euros. Et ça, c'était encore plus dur à trouver que des places pour Céline Dion.
Merci beaucoup, Pascal Pro. Pour parler de la situation en Iran, nous sommes avec le président américain. Bonjour, monsieur Trump.
Yeah. Yeah, bonjour mes chiens de Palerme, Pauline. Je suis content de voir que tu es sain et sauf.
Comment ça, sain et sauf?
Tu es aussi comme nos pilotes, t'es exfiltré d'une zone inhospitalière. Tu reviens de la salle, tu t'étais caché ce week-end.
Alors, donc, c'était le troisième ultimatum et finalement, vous avez encore laissé 24 heures de plus aux Iraniens.
Allez, où est Pauline?
Ah,
elle est là.
Oui,
oui, peut-être que je vais la laisser encore jusqu'à demain ou jusqu'à samedi. Faut savoir être diplomate avec cette bande de tarés pour qu'ils ouvrent ce putain de détroit d'Hormuz avant que je leur bombarde la gueule pour leur envoyer l'âge de pierre qu'ils ont jamais dû quitter.
Oui, moi je suis pas sûr qu'en leur parlant comme ça, ils vont accepter de négocier là. Hein.
Qu'est-ce que t'en sais, connasse? T'es une femme, tu connais rien à la diplomatie.
Ah,
alors
ça.
Que moi, la FIFA m'a donné le prix Nobel de la paix. La fédération de catch m'a donné le prix Gandhi. Et la fédération de MMA a donné le prix de Dalai Lama. Donc tu fermes ta gueule.
Merci monsieur Trump, c'est bien aimable. Alors on fait tout de suite un point sur la situation. Dans les stations-service, on est avec Nadine Morano en direct.
Ouais, c'est la Nadine. Je suis en rade avec ma cargaison de chocolat. Tu connais la marque, c'est moi.
Oui, pourquoi?
Ouais, mais moi j'ai lancé les chocolats, c'est pas moi.
Ah.
C'est les chocolats que mon Nico doit offrir au juge ce matin à la reprise de son procès. Mais là, c'est râpé. Mon réservoir est tellement sec qu'on dirait une vieille fille ménopausée que j'avais beaucoup. Mais ouais. Déjà, ça fait un mois que chaque passage à la pompe, ça me coûte un rein. Mais là, même en hypothéquant de minibar, je peux plus faire le plein, il n'y a plus rien à la station service. Non. Mon réservoir est aussi vide qu'un meeting de Bernard Cazeneuve dans mon abdomen. Du coup, je suis en carafe sur le bord de la route.
Ne mate le scud. Vous êtes où là, en fait, madame Morano?
Ah, mais comme, je suis où? Ben là, comme ça, pour avoir la couleur des autochtones, spontanément, je dirais le Sénégal. Mais jamais j'aurais trouvé assez d'essence pour arriver là-bas, donc je dois avoir dépassé à peine la Seine-Saint-Denis.
Oh non.
Mais non! Mais demande à Marshall, je suis pas raciste, j'ai un ami qui travaille au black.
On retrouve dès demain à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast dans un instant les GG. Alain Marchal est avec nous. Quel programme, Alain?
Eh bien, on va revenir sur le carburant. Le ministre de l'économie rencontre les partenaires sociaux. Est-ce qu'il faut, comme le demande la CGT, bloquer les prix à 1,70€? On s'intéressera aussi au climat politique à droite. Qui est le meilleur candidat de la droite? Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Xavier Bertrand, David Lisnard. Faites votre choix. C'est au 32-16 que ça se passe. Et puis, on évoquera la Lituanie. Pourquoi la Lituanie? Parce que face à la baisse de la natalité, la Lituanie veut relancer les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, nouvelle manière, faire en sorte que les jeunes se rencontrent davantage, puissent peut-être faire, comme on disait avant, frotter sur des slows, et ça permettra de faire des bébés. Est-ce qu'on doit faire la même chose en France? Allez, rendez-vous au 32-16 avec les GG.